Vous écoutez
RMC. RMC. Jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Eh oui, 9h30, tout pile sur RMC. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les grandes gueules du sport, votre émission incontournable du samedi et du dimanche matin en direct jusqu'à midi, avec aujourd'hui des invités exceptionnels. Mélina Robert-Michon et Alexis Anquinquant seront avec nous. Ils ont été choisis pour être porte-drapeau des JO et des Jeux Paralympiques. Ils seront dans ce studio à 10h30. Dans un instant, on va revenir sur l'euro raté de Kylian Mbappé, des interrogations sur sa forme, des questions aussi sur son statut. Doit-on remettre en cause le capitanat de Kylian Mbappé? C'est le débat à venir des GG. Le rugby français vit des heures sombres actuellement, avec plusieurs affaires qui entachent l'image de ce sport. Le rugby est-il en train de perdre ses valeurs? Ce sera le bras de fer des GG à 10h, et comme tous les week-ends, le Tour de France. Notre débat sur le vélo à 11h, avec la grande étape de montagne aujourd'hui. Est-ce que Vingegaard a repris l'avantage cette semaine sur Tadej Pogacar? Sans oublier vos rendez-vous, le zapping des GG, le débat caché que les GG vont découvrir en même temps que vous, le 32-16 ouvert dès maintenant pour nous rejoindre, mais aussi le hashtag RMC Live sur X et l'appli RMC Direct Studio pour laisser tous vos messages. Avec ce matin l'équipe des grandes gueules, composée d'une grande gueule qui, comme Florent Manaudou, est très bon en couler. Le problème, c'est pour remonter. Fred Veil, salut Fred.
Salut. Alors c'est faux, comme je touche le fond de la piscine, je remonte très rapidement.
Ah bon?
Oui.
Bah oui. Bah oui, c'est vrai, toi.
Je suis assez grand.
En fait, jamais sous l'eau.
Exactement.
Je
marche, moi, en fait, dans la piscine.
Tiens, vous l'avez entendu, une grande gueule qui, comme Florent Manaudou, a un homonyme qui est bien plus connu que lui. C'est Jérôme Pineau qui est avec nous. Salut Jérôme.
Salut les amis, salut à tous.
Ouais, mais si je veux parler de l'or
Fred
pour Florent.
À pied partout,
et toi, c'est Thibaut. Ah bon, il a pied partout.
Oui.
Ah bah, n'importe quelle piscine, Fred, il touche le fond et il peut rester.
Ah, ça, je touche le fond très souvent.
ça, c'est sûr. Il n'y a pas que toi, Fred. Il n'y a pas besoin d'être grand pour toucher le fond.
Ça touchait le fond, effectivement. Salut Jérôme.
Salut.
Une grande
à tous.
Gueule qui, comme Florent Manaudou, a goûté l'or, mais il préfère l'argent. David Douillet. Salut David.
N'importe quoi. J'ai jamais aimé l'argent, j'ai toujours préféré l'or.
Ah oui, bon, c'est vrai.
Non, mais j'ai compris.
Bah oui, bien sûr, j'imagine.
Non, mais c'était pas terrible comme annonce.
Ah bon, d'accord, t'as pas aimé. Ok.
Non.
D'accord, bon, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, David, c'est promis. Et puis une grande gueule qui, comme Florent Manaudou, adore l'eau, mais avec du pastis au fond, c'est Simon Dutin. Simon qui arrive dans un instant, c'est pour ça. Peut-être qu'il n'est pas encore présent, mais il va arriver.
Qu'est-ce qu'il va nous inventer ce matin, Simon? Parce que la semaine dernière, c'était le métro qui était bloqué, je sais pas.
Bah, à mon avis, ça sera la même. Hein. C'est la récurrence du métro, en fait.
Ah, ça doit être le problème.
Ah, c'est toujours la récurrence du métro.
Ouais. Ouais. Encore un coup de gueule à venir sur le métropolitain, comme il dit. Allez, le capitaine des GG, vous l'avez remarqué, ça fait 2 semaines qu'il n'est pas là. Jean-Christophe Drouet, il a abandonné le navire, visiblement. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un.
RMC, la une des grandes gueules du sport. RMC, la une des grandes gueules du sport.
Et moi j'ai une question, quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé?
Dembélé, l'enchaînement, il est allé chercher Mbappé, le ballon roulé.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une passe, c'est un cadeau.
On met moins de panache ou de punch comme vous dites, et on prend 2 buts coup sur coup, et après on essaie de réenclencher la machine, mais au final c'était pas suffisant.
Mbappé qui avance, Mbappé qui essaie de crocheter, il passera pas.
À l'arrivée, le résultat il est ce qu'il est, ça veut dire qu'on n'a pas tout fait, on n'a pas fait assez pour aller en finale.
Mbappé qui contrôle le ballon, Mbappé, c'est trop
long.
Quand je suis arrivé en sélection, on avait des joueurs différents. Avec Paul Pogba, tu as juste à baisser la tête, à courir, faire un appel. Tu sais que le ballon, il va arriver dans ton pied.
Maintenant, Mbappé, premier ballon dans l'espace. Elle est molle. Elle est très molle, cette balle.
Aujourd'hui, avec les joueurs que j'ai, peut-être qu'on peut moins jouer en profondeur parce que c'est moins leur caractéristique de vous envoyer en profondeur.
Allez, Mbappé accélère. Mbappé face à Vivian. Oui, c'est la frappe.
Des fois, il faut pas trop le compliquer. Hein. T'es bon ou t'es pas bon. Hein. Voilà, j'étais pas bon et voilà, on rentre à la maison, c'est simple.
Non, tu n'aimes pas cette chanson.
Si, mais c'est un tout petit peu à l'ancienne quand même.
Ah bah oui, légèrement, oui. Tu n'aimes pas ce qu'est l'ancienne.
Si, David Douillet, je l'adore par exemple.
David, il adore cette musique. Bah oui, c'est bien parti. Kylian Mbappé, vous l'avez entendu, il a avoué qu'il était passé à côté de son euro, un bilan décevant sur le plan sportif, agrémenté de prises de position clivantes en conférence de presse. Donc, on va y venir, les GG, avec cette question. Après cet euro, doit-on remettre en cause le capitanat de Kylian Mbappé? Fred Weiss.
Non.
Jérôme Pineau.
Non.
David Douillet.
Oui.
Et on accueille Simon Dutin. Salut Simon.
Salut tout le monde, bonjour, excusez-moi.
Salut mon Simon.
Salut les copains.
Salut.
Qu'est-ce que tu réponds à cette question?
Faut-il remettre en cause le capitanat de Mbappé? Oui, malheureusement, oui.
Ça fait deux oui, Simon et David, dans la même équipe, Jérôme et Fred, dans l'autre équipe. Juste avant de débattre, quelques coulisses de ce qui s'est passé au sein de l'équipe avec Mbappé, d'après nos confrères de l'équipe, en début de préparation, alors que Mbappé ne participe pas à une séance physique à Clairefontaine, certains joueurs demandent à ce que le capitaine montre l'exemple et rattrape les exercices le lendemain. Deschamps, finalement, refusera que Mbappé fasse du physique, prétexte, dans deux jours, il y a un match. Autre épisode, Deschamps voulait éviter que des groupes se forment, il décide de changer tout le monde de place dans le vestiaire hein, chez les Bleus et seul Mbappé restera à sa place à côté de son noyau d'amis. Et puis il y a quelques déclarations qui ont pu être modérément appréciées par le groupe comme celle avant France-Portugal où il regrette l'absence de joueurs capables de faire comme Paul Pogba, de lui donner des bons ballons.
Un attaquant, il doit toujours s'adapter à toutes les situations qu'il a. Je pense que beaucoup de gens font des références au jeu qu'on avait quand je suis arrivé en sélection. Mais on avait des joueurs différents. On avait des joueurs au milieu, par exemple un joueur comme Paul Pogba qu'on n'a plus aujourd'hui. Avec Paul Pogba, tu as juste à baisser la tête, à courir, faire un appel. Tu sais que le ballon, il va arriver dans ton pied. Aujourd'hui, avec les joueurs que j'ai, peut-être que on peut moins jouer en profondeur parce que c'est moins leur caractéristique de vous envoyer en profondeur.
Voilà, c'était Kylian Mbappé juste avant le France-Portugal. Les milieux de terrain ont dû apprécier. Je rappelle la question. Après cet euro, doit-on remettre en cause le capitanat de Kylian Mbappé? Fred, toi, tu as dit non.
J'ai dit non parce que c'est pas son capitanat qu'il faut remettre en cause. C'est son statut peut-être à l'intérieur de l'équipe. C'est-à-dire que, en gros, pour moi, enlever le capitanat ou penser à l'enlever, c'est un affront qu'aucun joueur ne mérite. C'est-à-dire que, en gros, mis à part s'il avait fait quelque chose de absolument affreux, moi, j'enlève pas le capitanat. Parce que ça peut le vexer, ça peut le faire sentir mal. Ensuite, on vient de l'entendre. Deschamps, en fait, qu'est-ce qu'il fait?
C'est pas affreux de flinguer ses collègues?
Ah non. Ne te méprends pas. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est un petit peu, il s'est mal comporté sur le terrain. Il a pas été bon. Il a mal parlé. Sauf que c'est pas parce que sur un événement, il se passe quelque chose de mauvais, bah que
ça,
il faut que ce soit
ça
mauvais.
Ça rentre dans ton raisonnement.
Mais justement, il faut rester cohérent avec ce qu'on dit. C'est-à-dire que si Kylian Mbappé est le capitaine, il faut qu'il reste le capitaine, même si par moment ça va mal. C'est-à-dire qu'il faut pas changer tout de suite, faut pas être en réaction, faut continuer à lui faire confiance. Il a des circonstances atténuantes, il a pas fait la préparation qu'il voulait avec le PSG. Il s'est cassé le nez, il a pas été bon, il a mal parlé effectivement. Ok, maintenant on va voir ce qui se passe quand il va aller à Madrid. Ils vont le remettre comme il faut. Et je pense que justement, ça serait trop dur, trop fort de réagir comme ça. Encore une fois, il est pas du tout irréprochable sur l'euro et bien au contraire. Mais il faut maintenir la confiance en ses joueurs. C'est soi-disant le meilleur joueur du monde. Laissons-lui le bénéfice du doute.
David, t'as l'air de pas être d'accord du tout.
Non, je suis pas d'accord du tout, parce que moi, quand j'ai vu la question, je me suis dit, mais en fait, le rôle d'un capitaine, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on demande à un capitaine? On lui demande de faire le relais entre les sélectionneurs, l'entraîneur et le reste de l'équipe, ça c'est une chose. On lui demande d'être exemplaire. Et là les exemples sont multiples pour montrer qu'il est pas exemplaire. Même à l'entraînement, il est pas exemplaire. Il fait pas partie du groupe. Il s'extrait lui-même du groupe de par son comportement.
Il s'en extrait pas du groupe.
Ben oui, le mec fait pas la prépa, il s'extrait du groupe. Voilà,
point barre. C'est Deschamps qui lui.
Non mais ça, tu sais, Fred, on en connaît des tonnes des mecs comme ça. On en connaît des tonnes. Et le rôle d'un capitaine. Moi, je reviens sur le rôle d'un capitaine. C'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui sue, qui écoute les autres, qui est tourné vers les autres.
David, pourquoi il se permet ça? Parce que Deschamps
le
permet.
Il le fait pas.
En fait, le problème, c'est que Deschamps devrait le recadrer déjà.
Fred,
quand on change tout le monde de place, on change tout le monde.
Je suis sur le rôle du capitaine. Mais on parle pas de Deschamps, Fred. On parle de Mbappé.
Sauf que c'est pas un capitaine exemplaire parce que son boss, parce que le coach, eh ben, lui passe à peu près tous les caprices. Et ça, c'est pas normal.
Donc tu es avec moi. C'est un capitaine. C'est un capitaine qui n'a pas d'autonomie, qui n'a pas de réflexion personnelle. Il fait ce que le coach lui dit, etc. Le rôle d'un capitaine, il est là aussi pour relayer ce que l'équipe ressent. Relayer, faire le lien, mais dans les deux sens, entre le sélectionneur et le reste du groupe, évidemment. Et puis, sur le terrain, il est là pour aller réconforter les autres. Quand il y en a un qui a un petit coup de mou, lui dire un petit mot à l'oreille, la petite tape dans le dos, etc., etc. Je n'ai jamais vu ce signe-là.
Son coach traite comme un dieu vivant au-dessus de tout le monde. Donc forcément,
mais
lui
justement,
à un moment,
il n'est pas la marionnette de Didier Deschamps. Il a un cerveau, il a une autonomie, Mbappé, donc il est capable de comprendre et d'endosser ce que costume de capitaine.
Oui, mais et quand David, on endosse son costume
avec son indépendance.
Tu sais que quelqu'un, si quelqu'un te dit tous les jours t'es le plus beau, t'es le meilleur, toi on va pas te bouger, toi t'as du physique à attraper, on va pas te le faire attraper. Bah à un moment tu crois être celui-là. Sauf qu'il faut qu'il redescende sur terre.
Et donc c'est pas un bon capitaine. Mais pour l'instant
c'est pas un bon capitaine.
Et donc c'est une marionnette, c'est la marionnette de Deschamps. Mais il a pas de réflexion personnelle.
C'est pas la marionnette de Deschamps. Mais non, il le met sur un piédestal. C'est bien le contraire. Justement, il Deschamps le pousse
Mbappé,
à être
Mbappé,
égoïste,
il est capable. Enfin, n'importe qui, Fred, il est capable de se rendre compte que peut-être que son sélectionneur, il est aveuglé par le type. Et puis il se dit, mais attends, moi je suis pas tout seul. Parce que quand on l'écoute et quand on l'entend, d'ailleurs même quand on le voit jouer, on a l'impression qu'il est tout seul et que les autres de l'équipe sont en fait ça orne le plat. Tu vois,
on est quand tu comprends pas par toi-même, c'est l'équipe là qui te font du bien. Là, il a pris une claque. Je pense que tout le monde l'a critiqué. Tout le monde a dit que c'était pas bien. Je pense qu'il a pris une claque. Il va comprendre. Il va aller à Madrid. Il va comprendre encore mieux. Et je pense que enlever le capitaine, encore une fois, c'est quelque chose de beaucoup trop dur en termes de sanctions.
Il est tellement centré sur lui, Fred. Le capitaine, il est tellement centré sur lui qu'il dit, je suis passé à côté de mon euro. C'est son euro. C'est pas l'euro de ses coéquipiers.
Moi, je dis pas qu'il faut qu'il ait pas de conversation. Il doit avoir des conversations. On doit lui parler, oui, mais le sanctionner aussi durement, et je suis d'accord avec Jérôme, tu risques de le perdre, en fait.
Il ne joue pas son rôle de capitaine. Je veux dire, ça sert à rien, ce rôle de capitaine-là. Il n'est pas dans son rôle de capitaine.
Tu sais qu'à aucun moment, il a l'exemple aussi. Là, il n'a pas été du tout exemplaire, mais
il peut l'être. Oui, juste quand tu disais, David, effectivement, qu'on n'avait pas vu forcément de gestes de capitaine, il y a eu quand même, là pour le défendre, juste quand il sort à un moment donné avant la séance de tir au but, il encourage ses joueurs, il leur explique, il les calme, il essaye.
C'est à moins des choses. Alors par contre, là pour donner une pièce à David, c'est à moins des choses.
Oui, non mais bon, voilà, ça peut.
Heureusement,
si tu le targues, d'égocentrisme absolu. À ce moment-là, il sort pas. Oui. Parce que c'est un mec qui est égocentrique, c'est Ronaldo qui veut jamais sortir, qu'il faut pas sortir. Là, il sort parce qu'il se dit, je n'apporte plus à mon équipe et je préfère que quelqu'un prenne ma place pour apporter quelque chose. C'est un geste de capitaine.
Personne n'a entendu Ronaldo flinguer ses coéquipiers en conférence de presse. Je suis désolé.
C'est une erreur de communication.
Tu vois, Ronaldo, c'est qu'il joue avec d'autres joueurs.
Mais ils ont pas le même âge non plus. David, on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même vécu.
Le comportement sur un terrain si on fait une comparaison, je pense que c'est faire affront à ses coéquipiers aussi, qui sont sur le banc, de pas vouloir sortir alors que t'es à côté de tes pompes. Donc c'est quand même un geste à ce moment-là pour Mbappé qui dit parce qu'il y aura meilleur que moi.
Argument. Pour moi c'est pas un argument
l'argument que t'avances c'est son égo centrique.
Il a envie de sortir, il a envie de gagner.
Que t'es capitaine, tu dois aussi regarder qui peut faire mieux que toi. Et là c'est un geste pour moi de capitaine.
Ouais, mais sauf que il a aucun geste jamais envers quiconque. Voilà, c'est ça.
C'est faux, sur la séance de pénalty, il rassure ses gars sur le terrain, il a quelques gestes avec l'attaque.
S'il le fait pas là, il le fera jamais.
Et oui, mais ça reste un joueur il est comme ça. C'est Kylian Mbappé parce qu'il est comme ça.
Non, mais très sincèrement, les gars,
parce qu'il a besoin parce qu'on l'a mis là aussi.
Et honnêtement, tous. Ouais. Est-ce qu'il a joué son rôle de capitaine pendant l'Euro? Répondez oui ou non.
C'est pas parce qu'il n'a pas joué son rôle là que tu dois justement le sanctionner.
C'est bien ce qu'on parle, c'est bien la question.
Mais oui, donc moi je veux pas le sanctionner, je suis d'accord. Depuis le début, je dis, il a pas été bon dans l'exemple, il n'a
pas
été bon dans l'attitude. Mais non,
tu veux pas remettre en question.
Non, parce que c'est trop dur. Tu sais ce que c'est de se faire virer de capitaine?
Ouais,
c'est absolument affreux.
Est-ce qu'on peut intervenir?
Juste avant, on va faire une petite pause. Parce que je vous sens très chaud et surtout, je te vois trépigné là.
Mais oui, parce
depuis tout à l'heure.
Fred, il nous dit ça. Fred, il nous dit ça. Très mauvais capitaine. C'est pour ça qu'il faut lui laisser le bras.
Il a été très mauvais. C'était un mauvais capitaine. J'ai dit qu'il avait été très mauvais.
Il a été très mauvais. C'est pour ça qu'il faut lui laisser le bras.
Non, essayez d'écouter tous les mots que je dis.
J'ai bien fait de patienter.
On arrive dans un instant, vraiment, dans un tout petit instant. Vous restez avec nous dans les grandes gueules du sport. Le débat continue, bien sûr. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 9h48, vous écoutez les grandes gueules du sport ce matin. Jérôme Pinot, Fred Weiss, Simon Dutin, David Douillet déjà en grande forme à partir de 10h. On va reparler des affaires qui touchent le rugby français et les Bleus lors de cette tournée d'été en Amérique du Sud. Est-ce que le rugby est en train de perdre ses valeurs? On vous donnera également les dernières infos, on en parle avec nos GG à 10h donc. Mais d'abord, la suite de notre débat enflammée sur Kylian Mbappé. Doit-on remettre en cause son capitanat ? Je rappelle que pour Jérôme et pour Fred, c'est non. Pour David Douillet et pour Simon Dutin, c'est oui. Et justement, Simon, je t'entendais et je te voyais entendant les arguments de Fred Weiss et de Jérôme Pinault. Toi, pour toi, il faut vraiment le remettre en cause, ce capitanat.
Mais c'est le remettre en cause, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que de toute façon, le péché originel et qui explique pas seulement la faillite de Mbappé en tant que capitaine, c'est d'avoir choisi Mbappé, la performance, la star, le phare, au détriment d'Antoine Griezmann. Je pense que Deschamps, il paiera cette erreur, quoi qu'il arrive, il l'a déjà payé, parce que au-delà, avant de revenir sur le capitanat de Mbappé, ça a obligé Deschamps à construire l'équipe autour de Mbappé et non plus autour de Griezmann. Et je pense que les problèmes dans le jeu de l'équipe de France s'expliquent en partie à cause de ça. Maintenant, si tu me parles de capitaine, moi j'entends, excuse-moi Fred, j'adore, souvent je suis d'accord avec toi, mais tu hurles dans le studio pour nous dire
il a pas
été un bon capitaine, si, justement. Pauvre chaton, tu vas pas lui enlever le brassard, sinon tu le perds. Mais pauvre, ah oui, comme c'est pauvre chaton quoi. On va lui dire, écoute, gros,
c'est toi qui l'as rajouté le bon chaton.
Pauvre chaton. Et tu penses qu'il n'est pas armé pour encaisser le fait qu'on lui retire le bras. Donc, vous me parlez de c'est fou parce que selon la force de l'émetteur, évidemment, on ne prête pas forcément les mêmes torts ou les mêmes mérites aux gens. Donc Mbappé, on a quand même réussi à saluer le fait qu'il a su s'effacer au profit de l'équipe lors de ce quart de finale face au Portugal. Vous vous rendez compte, il s'est senti moins bien. Il a dit au sélectionneur, je vais sortir. Mais j'ai envie de faire le travail. J'aimerais savoir quel capitaine de quelle sélection, en ayant débuté la prolongation, sans blessure, a demandé à sortir à la mi-temps de la prolongation pour ne pas aller à la séance de tir au but. Je demande à voir. Peut-être que ça existe beaucoup dans les archives.
Non, mais c'est un raccourci, ça, Simon.
C'est un exemple comme un autre.
Et quand tu mets sur le dos les contre-performances, oui, ok, Griezmann, mais Griezmann, il aurait fait un. Moi, je suis d'accord qu'à la base, la nomination, Griezmann avait tout pour être capitaine. Et quand t'es une grande star comme Mbappé, que t'attires déjà tous les regards, ça peut porter un préjudice au groupe. Lorsque, en plus, t'es capitaine et que tu sais que Deschamps est accroupi à cause, devant toi, parce que tout ce que tu fais, c'est toi l'homme important de l'équipe, d'accord. Une fois que tu as dit ça et qu'il a été nommé, comment tu peux dire Griezmann n'a pas fait un bel euro non plus? Est-ce que Griezmann aurait été à la hauteur et qui aurait fait un meilleur capitaine qu'Mbappé? C'est une faillite collective, c'est pas la faute d'un joueur aujourd'hui.
Il n'y a que dans les buts qu'il n'a pas joué lors de cet euro.
Quand il a été à son poste, il n'a pas été bon. Arrête, il était à côté de ses pompes. J'adore autant que toi ce joueur, mais quand il a été dans tous les postes où il a joué, il n'a pas donné sa pleine mesure. Il a juste on parle des déclarations, parce qu'il est vice-capitaine aussi, c'est à toi que je parle. Quand Griezmann dit, oui, j'ai commencé un peu dans le dur, j'étais commencé à être bien et on m'a mis sur le banc. Tu crois que c'est un vrai message de dire, on va mettre Griezmann capitaine maintenant parce qu'Mbappé était bon? Non, c'est pareil. À un moment donné, quand tu as pris cette décision.
Il n'était pas question de changer en cours de compétition, Jérôme, je pense.
Non, mais là maintenant, mais tu mets qui alors?
Je sais pas, il y a N'Golo Kanté par exemple.
Non, mais N'Golo Kanté, on sait très bien que ça va pas durer. S'il continue à jouer en Arabie Saoudite, il va pas faire encore deux ans comme ça sur la prochaine Coupe du Monde. Et moi, je te dis un truc, c'est que Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est qui? C'est le meilleur joueur de l'équipe de France quand l'équipe de France est au top. Comment tu peux destituer un capitaine comme ça, alors que tu sais que tu en as besoin, puisque lorsque ton joueur est au top et que ton équipe aussi, c'est lui qui te fait gagner des matchs. Aujourd'hui, on n'a pas gagné de match, c'est pas parce qu'Mbappé a pas été bon, c'est parce que toute l'équipe n'a pas été bonne, à part deux, trois joueurs. Donc si tu enlèves Kylian Mbappé du capitanat, tu le perds, et sans Mbappé, l'équipe de France, elle peut pas gagner non plus. Donc aujourd'hui, le président de la fédération a déjà dit, on continue avec le même coach. Comment voulez-vous que le même coach, après un échec, est reconduit à peine deux jours après l'échec, et qui disent, par contre, on va changer le capitaine? Mais tu perds toute crédibilité. Il y a un projet. C'est là où je te rejoins. David, là où je te rejoins pas, c'est que tu as été un immense champion. Tu as travaillé aussi dans les arcanes, jusqu'à être dans la politique. Tu peux pas faire ça. Quand tu as une feuille de route, tu peux pas tout changer. Surtout pas quand le mec qui le nomme, lui, on l'a déjà validé pour les deux prochaines années. C'est juste pas pensable de faire ça.
David. Tu te trompes.
Mais non, ils se discrédibilisent tous à ce moment-là.
C'est le plus grand service que tu pourrais rendre à Kylian Mbappé aujourd'hui.
David, c'est pas comme ça qu'il le prendrait.
De redescendre.
Pas comme ça, mais non.
De de redescendre de son piédestal, d'atterrir sur terre.
C'est impossible, tu parles d'Mbappé, il a le couloir pas possible.
Justement, c'est ça dont on parle. Non. À un moment donné, tu vois, il y a d'autres personnes qui jouent dans l'équipe, de lui faire comprendre qu'il est pas tout seul, que ok, il y a un projet commun, ok, on construit une équipe pour que tu sois le dernier à prendre le ballon et à le mettre au fond dans les buts, ok. Mais avant, il y a toute une chaîne qui fait que ce ballon, il arrive à ce moment-là. Bon, et ça, il l'a pas compris parce que lui, il a l'impression que il doit avoir le ballon, quiconque doit être là et peu importe qui c'est, etc. Et il y a pas. Tu sais, à un moment donné, il faut que les gens aient envie de faire des choses ensemble.
Ah, mais ça, je sais,
Eh ben oui, c'est le rôle du capitaine, quand même.
Oui, mais je te dis, aujourd'hui, le débat, David, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il faut destituer? C'est trop tard. Avec les mêmes mecs à la tête. Si on avait nommé Zizou, il arrive, il va te nommer un nouveau capitaine. Mais avec les mêmes mecs.
Et tu perdras rien parce que Mbappé, il sera pas choqué qu'il y ait un nouveau capitaine. Sauf que je suis d'accord avec Jérôme. C'est-à-dire qu'en gros, Deschamps, maintenant, il va dire, c'est mon homme de base, etc. Et du jour au lendemain, il va dire, non, finalement, il n'est plus capitaine. Il va revenir dans une équipe
qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Qu'est-ce
qui va se passer? C'est-à-dire que Kylian Mbappé va continuer à avoir ses privilèges, qui sont décriés par le reste du vestiaire quand même, hein. Faut le savoir, vous le savez quand même, j'espère. Donc il va bénéficier de son statut d'intouchable. Donc il va continuer à être l'intouchable de l'équipe. Donc il va contrer. Donc on va avoir deux équipes en fait. Il y a Mbappé qui est une équipe et le reste. Or le reste, est-ce que tu penses une seconde que le reste va donner tout ce qu'ils ont en eux?
Oui.
Est-ce que Mbappé va les faire grimper au rideau?
Oui, parce qu'on parle du sport le plus collectif des sports individuels. Faut arrêter de croire que c'est
pas vrai. C'est
le plus collectif des sports individuels. Ils ne pensent qu'à eux. Et si Mbappé revient au sommet qui leur fait gagner des titres, tout le monde va se coucher. Ils seront très contents.
Ça a rien à voir, Jérôme. Ça a rien à voir. Franchement, moi, j'en ai marre. Ça a été un capitaine désastreux. La question, c'est pas de savoir si Deschamps, tant qu'il reste sélectionneur, va lui retirer le brassard. On sait que ça n'arrivera pas. On se demande s'il mérite de garder le brassard, si c'est un bon capitaine. Ça a été un très mauvais capitaine. On a parlé de ses déclarations sur les absents, Pogba qui n'est plus là. C'est scandaleux. Il a osé dire, ouais, c'est vrai, Griezmann, il n'est pas au top dans cet Euro. Il n'est pas au top. Ça va revenir. Le mec, à la mi-temps d'une prolongation d'un match décisif, alors que, comme tu le dis, c'est le mec qui doit t'emmener plus haut, c'est le mec qui doit te faire gagner. Il dit, oh, coach, je vais sortir les pénaux, je les sens pas trop, là, les tirs au but, je les sens pas trop. Il ne fait que personnifier le discours. Je veux marquer de mon empreinte. Je veux gagner. Je veux machin. Simon. Et on nous dit c'est un bon capitaine. On dit non. Et vous nous dites
bravo.
Mais si, Simon, c'est le meilleur joueur de l'équipe.
Bravo, Simon.
Il reste capitaine.
Simon,
ça va,
quelqu'un qui peut pas en placer une, finalement, tu t'es quand même amené à lâcher. 9h56. Merci à tous. Ça continue, bien sûr, tout de suite. Les grandes gueules du sport. On ne vous réconciliera pas sur ce débat, évidemment. Restez avec nous. On parle de rugby dans un instant. Est-ce que ce sport est en train de perdre ses valeurs? C'est le bras de fer, GG. Et c'est tout de suite. Restez avec nous.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h09, vous écoutez RMC, vous avez raison, les grandes gueules du sport sont en forme depuis ce matin. On est en direct jusqu'à midi avec Jérôme Pinault, David Douillet, Fred Weiss et Simon Dutin. Et on remercie aussi tous ceux qui nous écoutent actuellement en podcast. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Dans 30 minutes, des invités exceptionnels dans les grandes gueules du sport. Ils vont porter le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet et lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques le 28 août. Mélina, Robert Michon et Alexis Anquincan seront nos invités dans ce studio, dans un instant. Et puis à 11h, les GG passeront la seconde pour suivre la roue des coureurs du Tour de France avant la grande étape de montagne du jour. Est-ce que Vingegaard a repris cette semaine l'avantage sur Pogacar?
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Mais d'abord, le bras de fer des GG sur la tournée des Bleus en Amérique du Sud qui vire au fiasco. Deux joueurs, Oscar Jégou et Hugo Radou, sont accusés de viol avec violence. Quelques jours plus tôt, une vidéo à caractère raciste de Melvin Jaminet a été diffusée sur les réseaux sociaux et le joueur de Toulon a été exclu du groupe. Est-ce que le rugby est en train de perdre ses valeurs? Dans le coin droit, on retrouve la team Oui, le rugby perd ses valeurs, composée de Jérôme Pinault, David Douillet et Fred Face.
Ah, tout de même.
Dans le coin gauche, seul face à la meute, mais c'est le rôle qu'il préfère, la team Non, Simon Dutin. Avant d'en débattre, messieurs, on va accueillir Pierre Thévenet qui suit le rugby pour RMC. Salut Pierre.
Bonjour à tous.
Salut Pierrot.
Oui, parce qu'il y a du nouveau dans cette affaire. Oscar Jégou et Hugo Oradou ont donc été mis en examen hier pour viol aggravé. Les deux rugbymen visés par une plainte pour agression sexuelle par une femme de 39 ans étaient incarcérés depuis une semaine en Argentine et ont été inculpés hier soir à Mendoza.
Oui, à la suite d'une audience à huis clos de plus de 2 heures, le parquet de Mendoza a inculpé les deux internationaux pour viol aggravé, Oscar Jégou et Hugo Oradou, qui ont choisi de ne pas témoigner pendant cette audience. À sa sortie, un de leurs avocats, maître German Nato, restait plutôt serein.
Ils sont évidemment sûrs de leur déclaration, de leur version. Ils sont calmes parce qu'ils se savent innocents dans cette affaire, mais bien sûr inquiets de la situation qu'ils ont dû vivre.
Et désormais, Pierre, place à l'enquête.
Oui, qui va devoir déterminer précisément les faits, qui restent flous. On attend des analyses toxicologiques, des vidéosurveillances, des nouveaux témoignages. Également, les joueurs sont bien sûr toujours présumés innocents. Ils évoquent des relations consenties. Ils nient toute forme de violence sur la victime présumée. Maître Natacha Romano, l'avocate de la plaignante, tient elle un récit glaçant dans lequel elle dénonce des violences sexuelles particulièrement atroces dans cette nuit de samedi à dimanche, après que l'un des joueurs a ramené la femme de 39 ans dans la chambre d'hôtel.
Une fois dans la chambre, elle s'est rendue compte de l'excitation cet homme. Elle demande à aller aux toilettes pour s'échapper. Immédiatement, il l'attrape pour la maintenir sur le lit. Il la frappe à la tête, l'étouffe. Elle s'évanouit presque. C'est là qu'elle est agressée sexuellement une première fois. Il l'attrape par les cheveux, la traîne à travers la pièce et l'oblige à avoir une relation sexuelle avec un deuxième homme qui est ensuite entré dans la chambre. Il l'abuse également, il la frappe. Le même modus operandi que l'autre homme.
La plaignante, qui avait porté plainte dimanche, a été hospitalisée jeudi à cause d'une décompensation générale du corps. Pour l'instant, Oscar Jégou et Hugo Radou vont rester en détention provisoire et ce, en attendant l'étude de la demande de leur placement en résidence surveillée qui a été déposée par leur avocat. Quoi qu'il en soit, ils ne devraient pas rentrer en France avant leur procès et ils risquent jusqu'à 20 ans de prison.
C'est une affaire, Pierre, qui a forcément impacté le groupe.
Oui, même si la tournée s'est poursuivie, elle se termine ce soir à 21h à Buenos Aires. On a vu Florian Grill, le président de la Fédération Française de Rugby, particulièrement touché, mais aussi Fabien Galthié parler de traumatisme pour le 15 de France.
Pour le groupe, pour la délégation, ça a été vécu comme un traumatisme, une forme de sidération. Lorsque la police a débarqué à l'hôtel à Buenos Aires, donc ça a été vraiment une journée très difficile, très très dur. Un moment, un instant, une période très difficile pour nous à vivre. Je parlerai de sidération.
La Fédération française de rugby a déjà annoncé une conférence de presse mardi matin à Marcoussis pour évoquer les, je cite, événements extrasportifs de la tournée en Amérique latine.
Merci beaucoup Pierre Thévenet, tu vas rester avec nous hein. Si tu as des précisions, tu n'hésites pas bien sûr. En tout cas, c'est pas la première fois que le rugby est aux prises avec des affaires. Il y a eu l'affaire de la table de chevet de Bastaro en Nouvelle-Zélande en 2009 et plus récemment, il y a des condamnations pour violence conjugale de Mohamed Awas, un procès pour viol aussi qui aura lieu en juin concernant plusieurs anciens joueurs de Grenoble ou encore la condamnation avec sursis de l'international Bastien Chalureau pour agression. Est-ce que le rugby est en train de perdre ses valeurs? On vous a posé la question sur le compte X des grandes gueules du sport et pour l'instant, le sondage donne un large avantage à la team Oui, le rugby perd ses valeurs, 71%. La team Non, représentée aujourd'hui par Simon Dutin, c'est 29%. Donc Simon, c'est à toi de commencer.
Écoute François, je ne vais pas remettre la rédaction en chef de cette émission, hein, qui est par ailleurs excellente, mais moi j'en ai un peu marre de ces poncifs, ces espèces de lieux communs qu'on trimballe.
C'est pas la rédaction en chef qui parle des valeurs du rugby. Hein.
Mais justement, en fait, non, mais
on va faire préciser quand même les valeurs du rugby, c'est quand même le rugby lui-même qui en parle.
On est comptable de ça, justement, de relayer cette espèce de cliché, les valeurs de l'Ovalie. Il y en a marre. Je pense que même les rugbymen eux-mêmes en ont marre. Cette espèce de cliché comme quoi, tu sais, les fameux gentlemen qui jouent un sport de voyous, les mecs qui se mettent sur la tronche sur le terrain et puis qui après font des câlins au resto ou au bar et partagent la convivialité comme si les footeux ils étaient trop, tu vois, trop stupides pour pouvoir être copains et partager du bon temps ou respecter l'adversaire. J'en ai un peu ras-le-bol, moi, de ce schisme entre le sport, encore une fois, qui serait vraiment vecteur de valeur et puis celui qui serait pratiqué que par des individualistes. Parce que je prends le foot parce que c'est souvent au foot qu'il est opposé. Donc, pourquoi je réponds non? C'est parce que il faudrait, voilà, je réponds non parce que ça partirait du principe que il existait des valeurs au rugby qui n'existent pas ailleurs. Et je pense que le rugby, les rugbyman avancent masqués derrière cette espèce de cliché depuis bien trop longtemps. Voilà, au rugby comme ailleurs, il y a des mecs qui sont capables d'aller se prendre une grosse cuite, de déraper en fin de soirée, de commettre des actes.
Ouais, mais ils étaient mieux encadrés avant.
Mais encadrés.
Il y avait moins de médiatisation, c'était moins professionnel. En fait, avec le professionnalisme, arrivent les problèmes
alors,
en général.
Là où je peux éventuellement te rejoindre, c'est que peut-être que le rugby est à un moment carrefour, dans une zone grise, oui, comme tu dis, depuis l'arrivée du professionnalisme, et en termes d'exposition, en termes de renommée, en termes de...
T'as des gamins, Simon, t'as des gamins qui arrivent, parce que c'est deux gamins dont on parle, et encore une fois, c'était présumé innocent, mais on parle de deux gamins qui ont de la notoriété, qui ont de l'argent, ce qui, avant, arrivait moins, en tous les cas, moins rapidement, avec moins d'argent en jeu, etc. C'est ce qui s'est passé. On a essayé de nettoyer la NBA, on a eu ce genre de problème.
Justement, avec j'allais y venir. Est-ce que des jeunes basketteurs français ont moins de valeur que des rugbyman français, que des tennisman français?
Moins de valeur collective, peut-être. Peut-être dans l'image du collectif, peut-être oui. Mais effectivement, dès qu'il y a de l'argent en jeu, dès qu'il y a de la notoriété, dès qu'il y a une visibilité qui est très importante, il y a ce risque de déraper. Forcément. Parce qu'encore une fois, t'as ce syndrome d'impunité. Tu crois que tu peux faire n'importe quoi. Tu crois que tu peux sortir une vidéo en insultant les gens. Tu peux pas faire ça. Sauf que, avant, comme il n'y avait pas de valeur argent, il y avait cette valeur d'homme à homme. C'est-à-dire qu'en gros, l'ancien te disait, hey, petit, si tu recommences ça, tu vas avoir un problème avec moi. Maintenant, il n'y a plus ça. Parce que quand t'es jeune, déjà, tu domines, tu as une autorité et tu as déjà cet argent.
Ouais, mais
donc,
c'est pas une question de rugby, c'est une question de professionnalisme et d'amateurisme.
Alors c'est la société.
Tant qu'il n'y a pas de pognon en jeu et qu'il n'y a pas d'exposition, t'es en train de me dire que tu restes un mec à peu près...
Concrètement, la société est comme ça aussi. Mais effectivement, avant, t'avais ce pouvoir sur les jeunes que tu n'as plus dans tous les sports en général. Mais c'est vrai que c'est plus marquant en rugby parce qu'on avait cette illusion peut-être de valeurs, de gens qui respectaient les choses, etc. Sauf que maintenant, tu dis, c'est juste un sport professionnel qui gagne plein d'argent.
Je pense que ces valeurs, elles nous ont été survendues. Voilà, c'est ça.
J'ajouterais à ce que dit Fred. Pour moi, ça vient de plus profond que ça. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée du professionnalisme, on va chercher des joueurs de plus en plus jeunes. On va les former.
Pour
bien jouer. Évidemment, je te rejoins, Fred. C'est pour ça que j'ai dit non, j'ai dit oui. Parce que les valeurs du rugby, c'est quoi? C'est des valeurs éducatives aussi. C'est des valeurs à l'école, chez les gamins, respecter les droits de l'homme, respecter chacun, vivre ensemble. On parle de cela. Aujourd'hui, on parle de l'acte terrible qu'on fait deux personnes en fin de soirée, mais c'est pas un dérapage, c'est potentiellement fait, pardon. Mais la vidéo de Jaminet, on la voit, il n'a pas potentiellement dit ça. Donc ça veut dire qu'il y a un problème éducatif. Le problème des valeurs du rugby qu'on appelle les valeurs de l'Ovalie, c'est qu'il y a une scission entre avant, le rugby d'avant, avec ces valeurs-là, les anciens, qui n'arrivent plus à transmettre. Mais ça fait belle lurette, et là je te rejoins Simon, ça fait belle lurette que ça n'existe plus, mais il n'y a pas que dans le rugby. Il n'y a plus de transmission. Les jeunes branleurs, ils arrivent, ils sont à peine avec un maillot d'un club pro, ils ne sont peut-être pas encore pro, qui sont déjà ailleurs, qui sont déjà dans leur monde.
Parce qu'ils restent plus anciens, ça c'est sociétal.
Parce qu'il n'y a plus de transmission, parce qu'il n'y a plus de transition, parce qu'on en fait d'eux des individualités et que les valeurs ne sont plus transmises. On ne fait appel plus qu'à une chose, la performance, et dans les écoles de foot, et là je suis sûr que David tu vas me rejoindre, dans l'école de foot d'abord, dans les écoles de sport, qu'elles soient de rugby, de vélo, de tennis, il y a école d'abord. À l'école, on apprend le vivre ensemble, on apprend l'éducation, et il n'y a plus d'éducation chez ces jeunes-là. Et donc on ne peut pas me parler de valeurs, et moi je peux bien entendre Jean-Marc Lhermé qui s'est rendu à Mendoza, que j'aime beaucoup, les Denis Charvet, etc. Oui, il y avait des valeurs à leur époque, quand ils nous parlent des barbarians, oui, mais ça c'est fini tout ça. L'avenir n'appartient plus à ces gens-là, dans le rugby c'est fini, et dans les autres sports aussi.
Juste avant de te donner la parole, David, une précision de Pierre Thévenet qui suit le dossier sur, justement, tu parlais des jeunes, c'est une tournée un peu particulière.
Exactement, c'est une tournée de fin de saison dans l'hémisphère sud, comme on l'a fait tous les ans. Cette année c'est en Argentine, c'est une tournée où il n'y a pas les cadres de l'équipe de France, aucun des joueurs du Stade Toulousain, donc pas d'Antoine Dupont, pas de Thomas Ramos, pas de Romain Tamac, pas Grégory Aldrit de La Rochelle, aucun Bordelais non plus. C'est pour ça aussi que Oscar Gigou et Hugo Radou ont eu leur chance, c'est une tournée qui est fait pour ça.
Leur chance, mais justement.
Certains en dehors de la fédération ont justement pointé la FFR en disant qu'il n'y avait pas eu assez d'encadrement autour de cette tournée. Florian Grill s'est défendu en disant que c'était le même dispositif que d'habitude avec un chef de délégation, un team manager, et que voilà, l'encadrement en tout cas était le même que d'habitude. Sans doute qu'ils vont le repenser pour les années à venir. Non,
encore une fois, ok, c'est des jeunes joueurs, peut-être qu'ils ont encore plein de choses à apprendre. Moi, je sais pas, enfin, il y a quand même.
Simon, c'est des bébés. C'est des bébés. Ils ont 21, 22 ans. C'est des bébés.
On en parle comme s'ils étaient déjà condamnés et qu'ils allaient passer 30 ans en tôle. Attendons, la présomption d'innocence. On en parle suffisamment. Et, on est déjà en train de les condamner comme des criminels, d'une part. Et juste, Jérôme, c'est des mecs qui sont très jeunes, c'est encore des gamins, mais qui, malgré tout, je veux dire, baignent dans un univers d'adultes très encadrés depuis très longtemps.
21, 22 ans.
On m'explique que les Toulousains sont, et les Rochelais sont pas là, ou les Bordelais sont pas là, et que du coup c'est des bébés, tu vois, qu'il faut c'est des mecs qui ont l'habitude.
Après
il y a des caméras, des médias, des
Jérôme, rapidement, et après
pas,
David,
c'est pas des enfants qu'il faut tenir la main, quoi.
Je suis d'accord avec ça, et en plus de cela là, on va je vais parler simplement de sport et des valeurs du sport. C'est une tournée où il n'y a pas les cadres. Donc c'est une tournée où on donne la chance aux jeunes. Quand tu as ta chance d'aller en tournée avec l'équipe de France, qui est le rêve, soi-disant le Graal pour chacun des rugbymans, mais qu'est-ce que tu fais à sortir tous les soirs, à te mettre des cartouches, et saisis ta chance, fais le job jusqu'au bout, tu iras te mettre des cartouches avec tes potes quand tu rentres en France. Là, ils sont dans le cadre d'une équipe de France sportive, d'une délégation. Il y a le mot France sur leur t-shirt, il y a le mot France sur leur jogging.
Les anciens,
et les mecs, ils sortent, ils se mettent des
cartouches. C'est pour ça que
pour moi, c'est juste pas possible.
Est-ce qu'on peut parler à un moment donné dans cette émission ou pas?
David. Vas-y, David.
Est-ce que c'est sympa, hein, c'est un débat normalement, donc je me mets dans le camp de Simon. On peut pas en placer une. Jean-Pierre Rive a dit un truc très juste il y a quelques années, qu'on peut étendre au sport et à la société, en fait. Il a dit, dans le rugby, il y a pas que des cons, mais tous les cons y sont. Voilà. Ça, c'est comme ça. C'est un état, c'est global, c'est très juste, c'est très fin, c'est joliment dit, je trouve. Mais ça reflète ce qui existe dans le monde du sport et dans le monde de la société. La société aujourd'hui, elle est composée de gens qui sont plus ou moins, certains plus, d'autres beaucoup moins éduqués. Mais à qui revient cette responsabilité de l'éducation? Aux encadrants, aux parents. Je veux dire, quand on critique des jeunes qui foutent le feu à des poubelles dans la rue et qu'on dit, voilà, bah écoutez, qu'est-ce qu'il faut à 13 ans dans la rue, et on a eu des malheureusement des malheurs absolus, des gamins qui ont violé une petite fille, des gamins de 13 ans, hein. Bon, bah voilà, on est dans le même mood, en fait, sociétal. Or, la responsabilité, l'éducation, ça vient de ceux qui ont ces enfants au départ. Un gamin de 13 ans n'a rien à foutre dans la rue. Comme des joueurs et en déplacement et jeunes, etc. C'est pas des bébés à 21 ans. Tu commences à être adulte. Si tu commences pas à être adulte à 21 ans, tu le seras probablement peu ou pas dans ta vie. Ils ont besoin de cadres. Et ils sont où, ces cadres? On les voit pas. On les voit pleurnicher à la radio, mais il y a personne. Je veux dire, quand t'emmènes des gamins, des jeunes, etc., etc., justement, tu renforces le cadre pour éviter ce genre de choses. Moi, je trouve que et donc le problème sociétal, il est le même dans le sport. Alors c'est hyper médiatisé, dès quelque chose, ça prend une ampleur monstrueuse, et c'est normal parce que le sport a valeur d'exemple. Et c'est comme ça, qu'on le veuille ou non. Simon, je suis d'accord avec toi. On en fait trop, c'est trop exagéré, et c'est trop demandé à certaines fédérations, à certains sports, etc., etc. Mais c'est comme ça. Voilà, le sport a valeur d'exemple, et puis on le revendique assez souvent. Bon, mais pour ça, il faut l'incarner, et il faut que dans toutes les fédérations sportives, dans le monde du sport en général, ceux qui encadrent, les entraîneurs, les coachs, mais dès le plus jeune âge,
et c'est
pour éduquer et pallier à des manquements qui proviennent bien souvent des familles qui n'existent plus.
C'est là où je te rejoins, David, parce que moi, c'est ce que je disais en introduction. Quand tu vas chercher des joueurs de plus en plus jeunes, parce que tu les veux dans ton club et qu'ils n'aillent pas ailleurs, ton devoir, c'est de suppléer l'éducation des parents. Tu peux pas aller chercher un joueur qui a 14 ans et oublier de l'éduquer. Alors, il faut finir l'éducation.
Jérôme, avant, c'est les anciens qui les éduquaient.
S'il te plaît.
Ouais, mais Fred, quand ils sont en centre de formation, ils ont des éducateurs. Et les éducateurs aujourd'hui, je suis désolé,
Jérôme, il
faut qu'ils pensent à autre chose que le sport.
Je mets de la discipline. Non, mais toi, tu écoutes plus que Jérôme. C'est pour ça que je me suis permis. Fred, Franck est avec nous. C'est pour ça que je voulais absolument entendre Franck, qui a fait le 32-16 ce matin dans les grandes gueules du sport. Bonjour, Franck.
Bonjour à tous. Salut Franck.
Non, moi je voulais intervenir parce que je crois qu'il y a un moment, il faudra peut-être qu'on arrête ces troisième mi-temps où c'est quartier libre dans le rugby.
Merci Franck.
Des fois dans le rugby, c'est le seul sport où il y a des problèmes. Non mais attends, non, je te parle pas personnel. Non mais
Franck, tu peux
je peux finir ou pas?
Laisse-le parler, je joue dans mon équipe.
Non mais bon, Jérôme, il a.
Non mais si tu dis une connerie, je te le dis. Non, c'est pas le seul sport.
Non mais je te dis,
il y a déjà eu des scandales.
Mais David, si tu veux expliquer ce que tu veux dire, on pourra pas savoir. Je vais avoir raison.
Oui, vas-y Franck.
Non, mais t'as organisé, il y a eu des tournois de judo. Enfin, je veux dire, il y a eu des stages en judo. Vous n'avez jamais eu de problème de ce côté-là? Quand vous étiez en stage, représenter le maillot, vous avez eu des problèmes? Jérôme, s'il a emmené ses équipes à Calpe faire des stages ou quoi que ce soit, il n'y a pas eu de problème. L'équipe de France, Clairefontaine ou quoi que ce soit, ils vont là en Allemagne, vous avez le droit de quartier avec les familles, mais sauf. Alors, je ne dis pas qu'à l'extérieur, en privé, moi, je ne vais pas comparer les Mohamed Avant et des autres trucs, les autres joueurs qui ont fait des conneries en privé, mais en représentant la nation et le maillot, en tournée ou en stage, il n'y a pas d'autre exemple, à part au rugby en Nouvelle-Zélande, et là encore en Argentine. Et il ne faut pas comparer le privé, Mohamed Avas, tout ça. C'est du privé, tout ça. Avec le représentant du maillot. Je suis désolé, tu as fait des stages en judo. En judo, j'ai jamais entendu parler de problèmes de beuverie, de conneries comme ça. Jérôme pareil à Calpe. Je suis désolé, il a envoyé ses coureurs à Calpe. Au GDB, il n'y a jamais eu de problème. Au rugby, c'est le troisième mi-temps, c'est la déchirade.
Voilà, exactement. Excuse-moi, je reprends la balle au bon, Franck, parce qu'il a raison. Le rugby, c'est le seul sport, tu vois, tu parles aux jeunes. Genre, tu vas dire, les gars, c'est pas bien d'aller picoler et tout. Mais au rugby, aller se prendre une énorme cartouche après un match, c'est super. C'est la convivialité, c'est bien, ça soude les trucs. Se mettre sur la gueule, c'est pas bien. Et on dit aux jeunes qu'il faut pas le faire, mais en rugby, c'est bien parce que il y a du respect et de la virilité et c'est bien un peu de se frotter comme ça. C'est le seul sport où en fait, on transforme des choses qu'on déconseille de faire aux jeunes en valeurs. Les valeurs du rugby, c'est ça. Alors, évidemment, je suis dans la caricature. Mais il faut arrêter de tromper les gens avec ces prétendues valeurs de rugby. Voilà.
Alors merci beaucoup Franck en tout cas d'être passé et tu reviens quand tu veux dans les grandes gueules du sport. Le résultat du sondage, le rugby est-il en train de perdre ses valeurs? C'est sur le compte X des grandes gueules du sport. Eh bien, c'est une victoire de Simon qui a réussi à prendre un point, 1%, 70% oui, 30% de non, donc Simon Dutin remporte la victoire, même s'il y a une majorité de gens qui pensent comme les autres. Non.
Pour moi, il a perdu un point.
Attends, vous allez voter du coup.
Ah bon? Non, c'était 71-29. Il me semble.
Non, c'est une victoire écrasante.
Voilà. 10h28. Non, c'est vrai, hein, je vous assure. Hein. Là, je suis honnête par rapport à ça.
En toute humilité, Simon Dutin, c'est Simon.
10h28, on revient dans un instant dans les grandes gueules du sport et on va accueillir deux porte-drapeaux pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mélina Robert-Michon, Alexis Anquincan sont les invités des grandes gueules du sport tout de suite dans ce studio. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Vous écoutez les grandes gueules du sport, il est 10h33. Simon Dutin, Jérôme Pinot, David Douillet et Fred Veil ce matin. Dans un instant, ça sera le zapping des GG. On parlera de Wimbledon et d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports qui a goûté l'eau de la Seine ce matin. Mais d'abord, on accueille deux invités exceptionnels dans le studio des grandes gueules du sport.
13 jours.
Avant les Jeux Olympiques sur RMC.
Mélina Robert-Michon est avec nous. Bonjour Mélina.
Bonjour.
Et Alexis Anquincan, bonjour.
Bonjour à tous.
Je l'ai dit à l'instant, Amélie Oudéa-Castéra n'était pas seule pour goûter l'eau de la Seine. Alexis, tu y étais aussi ce matin.
Bien sûr que j'étais avec
toi. N'exclus RMC. Alors, elle est bonne, l'eau de la Seine?
Et elle était très, très sympa, cette flotte de la Seine.
Elle est potable?
Alors, je ne l'ai pas forcément bu, hein, mais honnêtement, elle est à 20 degrés en ce moment, avec un courant qui est encore un petit peu fort.
20 degrés?
Ouais,
c'est
20 degrés.
C'est pas plus frais que ça?
Non, honnêtement 20 degrés. Et j'ai pas mis de combinaison de néoprène, donc vraiment c'est nageable comme
j'y
ça.
J'y vais cet après-midi, allez.
Et voilà. Et encore un courant qui est un peu fort, mais ça va s'atténuer dans les prochains jours, donc c'est parfait.
D'accord, elle nage bien la ministre.
Il l'a bien vendu quand même.
Mais venez, soyez nombreux à venir, vous allez voir. Je vais vous réconcilier avec votre fleuve là.
Elle nage bien la ministre, Amélie Oudéa-Castéra?
Elle était très à l'aise ce matin. Et ça fait plaisir de voir cette ministre comme ça, dans cette forme là.
Tu sais que Nicolas Pelletier a eu une on a des bien images sûr exclusives de la ministre qui...
Vous pouvez retrouver ça sur rmc.fr.
J'ai glissé,
elle
chef.
A glissé un petit peu, oui. En même temps, ça glisse hein, aux abords de la Seine. On va parler de cette grande annonce pour vous. Mélina, tu seras donc porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain, aux côtés de Florent Manaudou, qui était également présent sur RMC ce matin. Et puis toi, Alexis, triathlète, tu seras porte-drapeau le 28 août lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Tu seras avec Nantenin Keita également. et ça sera cette fois cette cérémonie d'ouverture sur les Champs-Élysées et place de la Concorde. Mélina, il y a quelqu'un ici qui nous écoute, c'est David Douillet qui était porte-drapeau en 2000 pour tes premiers Jeux Olympiques.
Je me rappelle, j'avais eu ma petite photo et tout, j'étais très très fière.
tu t'en souviens de ce moment-là et ça t'avait marqué?
Oui oui, j'étais marquée et j'étais impressionnée de pouvoir faire ma petite photo avec lui, de pouvoir assister à cette cérémonie. C'était un très très grand moment pour moi.
Fred Veil, c'était là aussi, hein, d'ailleurs.
J'étais là, mais moi, il m'avait pas marqué, David.
Tu n'avais pas fait de photo avec lui. Oui, c'était lui.
Okay. Bon. Je sortirai le dossier si je dois avoir la photo.
David, tu t'en souviens?
Alors, bien sûr que je m'en souviens. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et Mélina a raison. Ça reste un moment. Mélina, tu vas le voir. Hein, c'est aussi puissant qu'une breloque, quoi. C'est impressionnant, quoi.
On a hâte de voir ça. On en parle.
Ouais, c'est un moment exceptionnel. Alors, dans la configuration, parce que vous allez être sur des bateaux, je sais pas comment vous allez te positionner, parce que il va falloir que tu te battes. Que vous battiez tous les deux pour être le plus en avant possible. Je sais pas s'il faut vous mettre à la proue du navire.
Faut pousser Florent Manodou dans l'eau, il sait nager.
Hein. Sincèrement, il faut montrer que vous êtes là, quoi, parce que sinon vous risquez d'être noyé dans la masse de la délégation et c'est important d'être porte-drapeau parce que tu t'emmènes tout le monde, quoi. On parlait du capitanat de Mbappé tout à l'heure, mais vous êtes les capitaines en réalité de l'équipe de France Olympique, c'est ça la vérité. Mmh. Et au-delà du drapeau et au-delà de ce moment qui reste assez rapide, hein, je te jure que ça va très très vite, beaucoup trop vite, dans tout ce qu'on va te demander comme interview avant et après d'ailleurs, c'est d'emmener cette équipe de France Olympique vers les sommets des podiums, quoi.
C'est comme ça que tu le conçois, ce rôle de porte-drapeau, comme un capitaine d'équipe?
Oui, c'est ça, le but c'est d'accentuer encore ce côté collectif, parce que c'est ça en fait, on sait que la dynamique qui se crée joue aussi sur les performances, sur tout ça, et le but c'est que chacun puisse s'exprimer, c'est de partager tous ensemble un peu l'expérience qu'on peut avoir pour que voilà, je crois que c'est 65% d'athlètes qui vont vivre leur première sélection olympique. Donc c'est quand même pas rien, c'est aussi leur dire que voilà, et maintenant qu'ils sont là, ils ont aussi leur chance, ils sont qualifiés, maintenant il faut qu'ils aillent chercher une médaille, on a tous un truc à faire là-bas. Donc voilà, c'est impulser la dynamique et puis faire en sorte que tout le monde s'éclate.
Fred.
Moi j'avais une question pour vous deux, vous avez déjà prévu d'aller voir certaines compétitions, vous avez déjà mis votre planning en place. Alors je sais que c'est depuis peu, mais est-ce que vous avez déjà pensé à aller voir tous les autres justement en tant que capitaine pour les encourager, pour transmettre un petit peu cette énergie, quoi?
Voilà, le but c'est de faire un maximum de choses. On en a parlé un petit peu avec Florent, l'avantage c'est que lui il va être plutôt en première semaine avec la natation et moi plutôt milieu fin, donc on va essayer de voir. Le but c'est d'en faire un maximum. On a aussi notre compétition à gérer, donc le but c'est de trouver le bon équilibre pour qu'on puisse apporter.
C'est pas une crainte ça, justement, que t'as une compétition à gérer et en même temps t'es capitaine, ouais, un petit peu l'équipe de France. Est-ce que vous avez pas tous les deux aussi, Alexis aussi, hein, vous avez pas ce sentiment de se dire je vais peut-être me mettre trop dans le rôle de capitaine et je vais
une pression supplémentaire.
Voilà, un plus de pression peut-être, ou peut-être justement s'effacer au profit d'être capitaine.
Non, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. On va aller chercher justement l'énergie un petit peu de cette équipe pour faire le truc en plus.
Alexis?
Oui, il y a un petit risque, bien sûr que ce petit risque de vouloir se mettre vraiment en avant, de se mettre à portée de tous les athlètes, de comprendre leurs problématiques, d'essayer de leur apporter notre expérience, notre motivation. Ça risque de puiser un petit peu d'énergie. Mais à contrario, voilà, je pense qu'on va se nourrir aussi de tout ça et qu'on est une seule et même équipe. Cette équipe de France, on veut vraiment la faire rayonner de la meilleure des façons. Et je pense que ça va nous transcender aussi nous-mêmes parce qu'on va vouloir montrer l'exemple aussi. Et je pense que porte-drapeau, oui, c'est d'être capitaine, mais voilà, je pense qu'on a vraiment les épaules et la stature pour essayer de répondre ça au mieux. Et voilà, on a forcément hâte d'y être, quoi.
David avait réussi hein, cette mission d'ailleurs en 2000. Hein. Il avait remporté l'or, en David plus d'être porte-drapeau. Hein,
Arrête Fred.
On a de beaux exemples devant nous.
Non mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il n'y a rien à dire, quoi. Vous êtes tout à fait légitimes tous les deux, complètement. Et ce rôle vous va parfaitement et vous allez exceller dans ce rôle. Franchement, ça sent le bon parfum, voilà. Vous êtes emblématique de cette équipe de France et vous allez et Dieu sait si on a besoin de médiatiser surtout en ce moment cette équipe de France, ces Jeux Olympiques pour un peu changer de paradigme. C'est un peu mon coup de gueule de tout à l'heure, mais vraiment on compte sur vous. S'il te plaît, Mélina, ne refusez aucune interview, étalez la confiture le plus possible pour que enfin les athlètes soient mis en l'honneur avant et
David,
après.
Ils sont prêts à tout. Alexis était dans la scène. Ils sont prêts à tout. Ça se voit.
Justement, ça c'est. Moi, je rejoins David avec cette image. J'estime que c'est une magnifique représentation de l'Olympisme français, vos nominations respectives. Je suis très fier d'être français, que vous allez représenter le sport français, parce que c'est amplement mérité. Je voulais vous dire aussi que vous avez une énorme chance de le faire et kiffez bien, parce que je pense que tous les athlètes français réunis sur cette planète auraient eu envie d'être à votre place. Et je rajouterais à David, ce que dit David, c'est par rapport à l'image de ce matin, moi ce que je vois, c'est que Quentin, t'es allé goûter l'eau. La ministre, on s'en fout. Moi ce que je veux, c'est que les Jeux de Paris appartiennent aux sportifs français, au public français passionné de sport. Et ça commence maintenant.
Alors, tu as raison, mais tu vois, quand tu vois une ministre qui se mouille, et je trouve que c'est
vachement bien. Ouais, mais elle est là pour la com, parce que la mère de Marie a dit qu'elle
s'en fout. On s'en fout. Sans déconner, faut dépasser ce stade-là. On fait suffisamment de reproches à Anne Hidalgo qui va pas se mouiller, justement, lorsqu'il y en a une qui a le courage et qui va. On lui reproche de faire de la com.
Le message au-dessus de ça, c'est où je vous rejoins, c'est messieurs, dames, les athlètes, c'est votre moment.
Et ce qui est important aussi, Alexis Anquincand, qui est avec nous, qui est un champion avec un palmarès énorme de paratriathlon et qui va donc plonger dans la scène à partir du mois d'août pour les Jeux Paralympiques. Donc Mélina Robert-Michon qui est avec nous également, qui va vivre ses 7e Jeux Olympiques. Ce qui est important aussi, je pense, pour vous, c'est d'avoir été élu par vos pairs, c'est-à-dire par les autres athlètes. Ça, c'était une nouveauté. Et c'est vrai que ça renforce aussi ce rôle-là que vous avez en tant que porte-drapeau, je pense.
Oui, bien sûr que ce vote, c'est la première fois que ça se réalise comme ça. On est forcément très fiers parce que on se sent épaulé par nos athlètes, toute cette délégation olympique, paralympique. Moi, je suis très fier de ça. Je vais vraiment donner le maximum pour représenter chaque athlète. Voilà, si vraiment ils ont des problématiques, s'ils ont des thématiques particulières, je donnerai le maximum.
La porte est ouverte, c'est ça.
Bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je peux essayer de réconforter ceux qui seraient un peu en stress. Je peux essayer d'apporter un petit peu de peps justement pour ceux qui auraient besoin de se divertir un petit peu. Voilà, je pense que on est aujourd'hui capable, on a prouvé par le passé qu'on était capable de répondre présent sur des grands championnats, et ça sera forcément une course très très importante, ces Jeux, donc bien sûr que je me mets à
leur disposition.
Alors justement, moi, je me bats un petit peu pour que on batte en brèche l'espèce de narratif, les clichés. Justement, vous êtes les grands frères, les grandes sœurs des athlètes. Justement, concrètement, voilà. Au-delà de ça, depuis votre nomination, vous ne connaissez pas forcément personnellement chacun des athlètes. Est-ce que, je vais poser une question très bête, est-ce que vous avez reçu depuis que vous avez été élu, je sais pas, des messages d'athlètes, je sais pas, est-ce qu'il y a un groupe WhatsApp qui a été créé, je sais pas, est-ce que les athlètes reçoivent, eux, votre numéro de téléphone, votre mail, j'en sais rien, vous pouvez leur demander des conseils, voilà comment ça va se passer, parce que ce rôle, justement, d'accompagnement, ce rôle d'encadrement, en pratique, comment, une fois que vous êtes élu, il commence place, et comment il se met en place?
Déjà, Mélina a eu la très bonne idée ce matin, nous, en tant que porte-drapeau, de faire un groupe WhatsApp pour qu'on puisse communiquer entre nous. Bien sûr.
Okay. Enfin, après, absolument qu'on ait le numéro, nous, les journalistes. Hein. Je pense qu'il va se passer plein de trucs.
Non, il va y avoir des dossiers.
Justement.
Mais après, bien sûr que les réseaux sociaux aussi, aujourd'hui, aident énormément à la communication. Donc, bien sûr qu'on ne connaît pas tous les athlètes olympiques, paralympiques, ça serait un mensonge de le dire. Mais voilà, encore une fois, moi, c'est ce message, c'est pour les rassurer, qu'ils n'aient pas peur de nous contacter s'ils ont des besoins particuliers. Voilà, on va essayer d'y répondre un maximum. C'est, je pense, une grande fierté pour nous. Et ce qui est important pour nous dans le quatuor de porte-drapeau, c'est vraiment d'être une seule et même équipe de France unifiée, olympique, paralympique. Donc voilà, on va voir comment on peut essayer de réfléchir aux choses.
Justement, c'est quand une cérémonie, une seule cérémonie?
Alors une seule cérémonie, c'est pas pour demain, je pense. Mais encore une fois, je suis pas sûr que le débat il soit forcément de savoir si cette compétition elle doit être réunie en même temps, puisque si c'est pour perdre les téléspectateurs pour plus rien comprendre, je pense que c'est pas mieux non plus. Voilà, peut-être.
Oui, mais tu pourrais faire une cérémonie et que ce soit
oui,
en décalé.
Non, ouais,
moi je pense
sûr,
que mais... la solution ce serait de faire les Paralympiques avant.
Oui, je pense que la meilleure solution c'est ça. Effectivement.
Voilà.
Ça serait.
Exactement.
Si on réfléchit.
Parce que t'attires tout le monde, tu focalises tout le monde et t'aurais beaucoup plus de monde. C'est,
en
tu
fait, vois,
c'est,
enfin, faut, plutôt que d'avoir les Jeux Paralympiques sur un début septembre où finalement tout le monde est en mode rentrée,
exactement.
Ça va forcément perdre un peu d'influx. Vous feriez des Jeux Paralympiques mi-juillet, admettons,
maintenant,
et des Jeux Olympiques mi-août. Et là, en fait, bah, ça lance les débats,
là,
ça lance les hostilités. Et voilà, chacun suit ce qu'il a envie de suivre. Mais au moins, les enfants peuvent suivre les Jeux Paralympiques. Là, malheureusement, on risque de perdre un petit peu quand même.
Nous, on suivra ça hein, sur RMC, hein, les
et
Jeux
surtout,
Paralympiques.
Et surtout,
hein.
tu aurais
une radio digitale exprès. Oui, vas-y.
Et surtout, tu aurais tous les journalistes du monde entier qui suivent les JO et qui suivent pas forcément les Paralympiques, qui seraient là et qui feraient leur boulot déjà sur les Paralympiques et qui seraient concernés par Olympiques beaucoup plus que
alors,
parce que
ça,
t'as un paquet de journalistes qui vont partir après les JO et donc ça aurait une puissance beaucoup plus importante.
Alors on va les laisser tranquilles un petit peu parce que là c'est vrai que depuis que vous avez été nommé vous faites la tournée des médias hein, voilà c'est bien normal. On va vous laisser préparer aussi les Jeux Olympiques pour toi, Mélina. Tu vises une médaille ?
Bah oui, forcément.
Évidemment.
C'est de montrer l'exemple. Ça va pas être simple, donc du coup, voilà, j'ai encore un peu de boulot et je vais faire ça bien. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une dynamique en plus. Et en tout cas, moi, je suis vraiment très, très fière de porter le drapeau pour cette équipe et je suis sûre qu'on va faire de très, très beaux résultats. On a la chance unique de pouvoir représenter notre pays. En France, devant le public français, et ça, je pense que ça va être le très très gros plus de la délégation.
Ça va être magnifique.
Vous entraînez comme David Louis dans ce jardin ou quoi ?
Apporter le drapeau, bah oui.
Bah pas encore, mais on a eu un défi de Jackson hier qui nous a dit que lui s'était entraîné dans son jardin avec un râteau.
Avec un râteau, ouais, peut-être.
On va
lui envoyer
ça.
Une vidéo de râteau.
Et moi, c'était un balai.
Avec un balai, pourquoi pas. Merci en tout cas, Mélina Robert-Michon, d'être passée dans les studios des Grandes Gueules du Sport. Merci beaucoup, Alexis Anquincan. On va vous suivre très près sur RMC, radio officielle des Jeux Olympiques. Antenne exceptionnelle pour les Jeux de 9h à 1h du matin en direct avec tous nos reporters, évidemment, sur place en direct du Club France. Et puis les radios digitales vont être mises en place pour suivre spécifiquement les performances des Bleus aux Jeux Paralympiques et aux Jeux Olympiques. Donc un grand merci d'être passé et on a envie de vous dire évidemment bonne chance et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup.
À très bientôt.
On revient dans un instant, on va continuer de parler de Jeux Olympiques avec donc la ministre des Sports qui a goûté l'eau de la Seine. On en repart dans un instant dans le zapping. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
François Pinet.
10h51 sur RMC, les Grandes Gueules du Sport composées aujourd'hui de Jérôme Pinault, Simon Dutin, Fred Weiss et David Douillet. On parlera à partir de 11h de Pogacar-Vingegaard, le duel au sommet au Tour de France. Mais d'abord, comme tous les jours, c'est le zapping des GG.
RMC, le zapping des Grandes Gueules du Sport.
On va commencer, les amis, par ce que je vous disais. Amélie Oudé-Castéra, la ministre des Sports, qui a testé l'eau de la Seine. C'était ce matin en exclu pour RMC après l'annonce de l'amélioration de la qualité de l'eau par la mairie cette semaine. On s'en fout pas. Jérôme Pinault.
On s'en fout pas.
David Douillet.
On s'en fout pas.
Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Simon Dutin.
On s'en fout pas.
La mairie de Paris qui a annoncé que lors de ces 12 derniers jours, la Seine était conforme aux standards pour la baignade 10 ou 11 jours. Et ce matin, sur RMC, en exclusivité, Amélie Oudéa-Castéra est allée se baigner. Après la petite baignade, elle a dit un mot au micro de Nicolas Pelletier, notre reporter. Écoutez.
Je suis hyper émue. Là, la pensée qui m'anime, c'est tout ce travail qui a été mené. On avait dit qu'on serait prêts et on l'est. Et de se dire que grâce au jeu, on l'a fait, c'est hyper puissant. Donc c'est de l'émotion. Je suis assez rassurée parce qu'on me dit qu'elle est à 20 degrés. Ça va. J'ai déjà nagé en dessous, donc ça devrait aller. Et puis voilà, la perspective, en plus, regardez, mais c'est tellement beau.
Voilà, c'est tellement beau, Simon. Tu t'en fous pas?
Non, je m'en fous pas. J'ai dit je m'en fous pas. Je voulais simplement dire qu'à mon avis, Madame le maire de Paris doit être
Anne Hidalgo qui a prévu normalement la semaine
doit
prochaine.
Être courroux, doit être colère, doit être fâchée.
En analyse politique, c'est
Simon Dutin. Numéro 2. Hein.
Elle s'est faite voler la vedette hein, parce qu'on l'attendait de pied ferme. Julien Richard doit d'ailleurs y être. A prévu d'y être pour RMC. Bon, voilà. Non, bravo okay. Madame la ministre. Mais encore une fois, on est un peu, c'est de la com. C'est pour contre.
On a entendu David Diarno.
Ouais. Alors oui, c'est de la com, évidemment, dans ce cas de figure, mais on apprend quand même une super nouvelle, que l'eau de la Seine sera praticable, et ça c'est quand même
une
super
important.
Nouvelle.
Ça, c'est, mais il y a des relevés quotidiens, ça se trouve.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la formation, en plus de la baignade de la ministre qui nous a rejoué la scène de la 7ème compagnie, moi j'adore.
Ah oui, tu veux dire qu'elle n'est pas ressortie avec un troisième bras, donc on est
content.
Donc on peut se baigner dans la Seine.
Exactement. D'accord.
C'était évidemment attendu hier, la Ligue qui n'a toujours pas tranché pour un diffuseur, un peu plus d'un mois de la reprise de la Ligue 1. On s'en fout pas, David Douillet.
On s'en fout pas.
Jérôme Pinault.
On s'en fout pas.
Simon Dutin.
On s'en fout pas, mais Pat je vais laisser Weiss. La parole.
On s'en fout pas.
Les clubs de Ligue 1 qui n'ont pas encore tranché entre l'offre d'Azone, 375 millions par an pour 8 matchs sur 9, en espérant un complément d'une autre chaîne, et la création de la chaîne 100% Ligue 1 associée à Warner Bros. Conseil d'administration s'est donné jusqu'à dimanche soir pour prendre une décision. Jérôme, pourquoi tu t'en fous pas?
Non, on s'en fout pas parce que ça m'intéresse, parce que ça intéresse tous les fans de Ligue 1, et que ça traîne et qu'on est très inquiet parce que pendant ce temps-là et que tout cela se décide, et ben les clubs sont en difficulté. Il y a des clubs qui ne peuvent pas recruter, qui sont limités par les moyens, encadrés par la DNCG pour d'autres, et toujours pas de décision, et ça devient de plus en plus inquiétant. D'ailleurs, on voit bien dans les déclarations de chacun, de part et d'autre, des différents présidents, que des clans se manifestent. Et qu'il va y avoir des grosses tensions au sein de la Ligue 1, au sein du bureau et au sein des présidents, parce que c'est une situation qui envenime ce qui était déjà un peu pourri de l'intérieur. Et c'est plutôt une très mauvaise nouvelle que tout cela ne soit pas encore réglé. On est bientôt à la reprise de la Ligue 1, rendez-vous compte. On commence les matchs amicaux et on recule les investissements de certains clubs. Donc, encore une fois, on va creuser le fossé entre les clubs les plus riches et les autres.
Alors, évidemment, j'aurais aimé vous faire réagir tous, mais on aura l'occasion d'en reparler. Vous inquiétez pas dans les grandes gueules du sport au moment où il y aura évidemment une annonce officielle. Vous restez avec nous, on vient tout de suite dans les grandes gueules du sport avec le Tour de France au programme. Est-ce que Vingegaard a repris l'avantage cette semaine sur Tadej Pogacar alors que la montagne arrive aujourd'hui? C'est tout de suite. Vous restez sur RMC dans les grandes gueules. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Avec David Douillet, Jérôme Pinault, Simon Dutin, Fred Weiss ce matin, les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi. Il est 11h07 et vous écoutez RMC. Bonnes vacances. Si vous en avez, bon courage. Si vous travaillez, bon courage aussi. Si vous êtes sur la route des vacances et si vous vous réveillez seulement, vous avez de la chance et vous pouvez retrouver le podcast des grandes gueules du sport dès maintenant. On était notamment avec des invités exceptionnels, les porte-drapeaux Mélina Robert Michon pour les JO et Alexis Anquincan pour les Jeux Paralympiques. On a aussi parlé longuement du capitana de Kylian Mbappé. C'était à 9h30. Dans un instant, on va parler vélo avec Vingegaard, Pogacar, le duel au sommet. Est-ce que le Danois a repris l'avantage sur le Slovène? Le débat caché, vous le savez, ce sera dans 30 minutes. Et à 11h45, les GG contre-attaquent. Les GG prennent les commandes de l'émission en proposant un débat. Vous pouvez voter sur le compte X des grandes gueules du sport pour votre débat préféré. Le grand gagnant, on le connaîtra à 11h45. Vos propositions, les GG. Fred Weiss.
Alors hier, les deux équipes de France de basket se sont vues opposées à la Serbie. Alors l'équipe de France féminine s'est bien comportée, très bien comportée, même en gagnant. Mais par contre, les garçons ont perdu. Et ma question, c'est est-ce que l'équipe de France est inquiétante avant les Jeux Olympiques?
Très bien, clair, carré. Vous pouvez aller voter pour Fred. Jérôme.
Moi, lundi dernier, le sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Vauclair, a donné sa sélection pour les 4 coureurs qui participeront à la course en ligne et olympique et le contre-la-montre avec Kevin Vauclin notamment. Je vais vous parler des grandes chances de médailles que l'on pourra avoir sur cette épreuve olympique.
Parfait. David Douillet.
Est-ce que les Jeux se déroulent en France?
Bah oui.
Question. Oui.
Oui.
Est-ce qu'on en parle? Non. Bah, pas assez. Même. Le parcours de la flamme, l'avènement des Jeux totalement éclipsé par l'actu politique du moment. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Oui.
Place au jeu, place au sport.
Bon.
D'accord, très bien. C'est à retrouver également sur le compte Twitter X des grandes gueules du sport. Et Simon, ton débat?
Depuis que je regarde du foot, l'Euro de foot là qui se conclut demain, c'est de très loin le pire en termes de niveau de jeu auquel j'ai assisté. Je me demande si la finale sur le papier 5 étoiles entre l'Espagne et l'Angleterre est une bonne chose. En gros, l'Espagne est l'équipe qui a montré ce qui ressemble le plus à du football durant la compétition. Je me demande si une victoire de l'Espagne demain soir en finale suffirait à sauver cette édition 2024 de l'Euro.
Bah, vous avez fait quatre belles propositions, quatre beaux débats. Je ne sais pas pour qui je vais voter, je vais aller voir ça. Mais c'est à vous de choisir, vous le savez, ceux qui nous écoutez tous les matins. Vous allez sur le compte X des Grandes Gueules du Sport et le résultat à 11h45. Mais tout de suite, dans les GG, on va arbitrer un autre duel. Au sommet, celui-ci, sur les routes du Tour.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Allez, ça y est, c'est parti.
Voilà, Pogacar attaque.
C'est parti pour l'attaque de Pogacar.
Alors que Vingegaard, accompagné de Jorgensen, est en train d'essayer de revenir sur le maillot jaune.
Ouais, et ils sont en passe de réussir cet objectif. Ils ont une vingtaine de mètres de différence.
Il n'y a rien à faire, je te domine.
Allez, Pogacar qui attaque. Pogacar qui attaque pour aller peut-être prendre les points de la montagne ou peut-être pour une attaque définitive. Oh, Vingegaard qui n'arrive pas à suivre.
C'est mal connaître, mais nous faut pouvoir.
Vingegaard qui est en train de bien revenir là sur Tadej Pogacar. Il n'y a plus qu'une quinzaine de mètres d'écart. Vingegaard est à 5 mètres derrière Pogacar. Est-ce que Pogacar n'est pas en train de caler?
Tout est fini pour vous, maître.
La flamme rouge du dernier kilomètre.
Il reste 900 mètres pour Pogacar et Vingegaard.
Vingegaard ou Pogacar?
C'est Vingegaard qui va passer en tête. Vingegaard qui s'impose d'Arien, qui vient prendre des bonifications. C'est peut-être le grand vainqueur de cette étape ici au Lyon.
Pour moi, le mal absolu, c'est vous.
Vingegaard ou Pogacar, vous l'avez compris, ce duel mano à mano que l'on va sans doute retrouver aujourd'hui sur les routes du Tour avec la grande étape de montagne à suivre avec notamment Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Bonjour les copains.
Salut. Bonjour Christophe.
Ouais, il est en pleine forme. Salut, Christophe. On va se régaler effectivement aujourd'hui. On va avoir l'occasion d'en reparler. Tadej Pogacar qui est pour l'instant maillot jaune avec 1 minute et 14 secondes d'avance sur son grand rival Jonas Vingegaard. Pourtant cette semaine a été marquée par la victoire du Danois au Lioran juste devant le Slovène. Une victoire qui ressemble à un coup parfait pour le double vainqueur de la grande boucle. Alors, est-ce que Vingegaard a repris l'avantage sur Tadej Pogacar? Oui ou non? Simon Dutin.
Non, mais vraiment, c'est dur.
Dis ce que tu penses.
Pas tout ce que tu penses.
Je vais pas dire ce que je pense parce que je ne sais pas ce que.
Ah, tu sais pas, penser. Tu veux que je fasse un tour?
Mais je vais dire non, parce que c'est ce que j'espère. Voilà.
Fred Weiss.
Oui.
David Douillet.
Non.
Jérôme Pinault.
Oui.
Et Christophe Cessieux.
Oui.
Pour nous aider à répondre, on a fait appel à Arnaud Souk, qui est également sur les routes du Tour cette année. Salut Arnaud.
Salut les amis.
Salut Arnaud.
Ah oui, salut. Parce que cette semaine, le duel Pogacar-Vingegaard a eu lieu sur la route, on l'a entendu, mais pas seulement sur la route, aussi en coulisses.
Oui, avec des petites piques par voie de presse interposées, même si les deux champions se respectent beaucoup. Ils n'ont pas forcément été d'accord sur la conduite sportive à tenir depuis le début de ce tour. L'étape des chemins blancs, notamment dimanche, nous a offert une première passe d'armes sur la route et dans les déclarations, quand les deux ont réussi à se détacher du reste des troupes en compagnie d'Evenpool, mais que Vingegaard a refusé de rouler avec ses deux adversaires, pas tellement du goût de Tadej Pogacar.
S'il n'avait pas eu peur de moi, je crois qu'il aurait pris des relais quand on était seul. Et en plus, il avait un coéquipier, moi, quoi. Ils étaient en surnombre.
Donc je pense qu'ils ont peur de moi.
Ils ne pensent qu'à Maru et ne pensent pas à Remco, à Primoz ou aux autres.
Et à l'inverse, Vingegaard estimait, lui, avoir fait ce qu'il devait faire et répondait sèchement à une phrase aussi de Remco Evenepoel, l'accusant dans ses mots d'avoir manqué de cran.
Donc je ne dirais pas un manque de couilles, je dirais juste courir intelligemment. Mais ma priorité, c'était de les suivre. Tout le monde n'a pas la même vision de courir. Parfois, c'est mieux d'être un peu plus défensif.
Voilà l'intelligence tactique que revendique Vingegaard. L'a poussé quelques jours plus tard dans le Massif Central. En refusant de se mettre dans le rouge sur une attaque éclair de Pogacar dans le Puy-Marie, avec à l'arrivée une victoire d'étape pour le Danois, finalement revenu à son rythme pour boucher les 30 secondes sur le petit cannibale. Et ça a encore fait parler de tactique dans les interviews, notamment à Tadej Pogacar.
Je pense que maintenant on peut la jouer de manière un petit peu plus calme. J'ai une bonne avance et je me sens très bien. On arrive sur la fin de la deuxième semaine et je me sens encore bien. Donc il ne faut pas non plus s'enflammer, il faut maintenir cette avance le plus longtemps possible. S'il y a des opportunités, j'essaierai de les saisir, mais ce n'est plus à moi de faire la course et d'attaquer.
Voilà, reste à voir donc ce week-end si Pogacar sera capable de tenir ses paroles et de jouer tactiquement juste, de paroles d'experts. Et je vais vous laisser la parole, messieurs, il ne lui reste plus qu'une chose à faire désormais, coller au basque que de Vingegaard en toutes circonstances.
Miam, 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 on va se régaler, on l'a bien compris. En tout cas, le duel est parfaitement lancé. Merci beaucoup Arnaud. On te retrouve tout à l'heure, 14h dans l'intégral Tour et dès midi dans la radio digitale du Tour de France RMC 100% route à retrouver sur l'appli RMC. Merci Arnaud. Alors, est-ce que Vingegaard a repris l'avantage sur Pogacar, Christophe, qui les voit de très près depuis le début du Tour? Tu as dit oui.
Alors oui, j'ai dit oui, mais alors il y a deux sortes d'avantages. T'as l'avantage chronométrique, là il reste encore évidemment entre les mains de Pogacar. Il a une 14 d'avance, c'est bien plus que lors du Tour 2023 où au matin du chrono Vingegaard avec 10 secondes d'avance. Bon, on sait que 24 heures plus tard, il avait 7 minutes 35 de retard. Donc ça veut rien dire l'écart chronométrique, surtout qu'on arrive là vraiment dans les étapes les plus difficiles. Et le côté psychologique, là je suis persuadé qu'effectivement Vingegaard a repris le dessus sur Pogacar. Pogacar aujourd'hui est en train de se dire, ben oui, il va falloir que je cours intelligemment, il va falloir que j'arrête de faire n'importe quoi et partir à l'assaut, et faire un peu le D'Artagnan ou la tulipe noire du Tour de France. Il va falloir que je colle à la rue de Vingegaard. Et s'il réussit à le faire, effectivement, s'il réfrène ses ardeurs d'attaquant invétéré, peut-être gagnera-t-il le Tour de France. Maintenant, Vingegaard, on arrive vraiment dans les étapes qu'il affectionne particulièrement. C'est son terrain. On arrive sur le terrain du Danois aujourd'hui. Et le Danois, franchement, personne, il y a trois semaines, aurait pu dire qu'il se serait trouvé dans l'état psychologique et l'état physique dans lequel il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il semble avoir retrouvé l'intégralité de ses moyens. C'est complètement incroyable, mais c'est la réalité. Et on va voir, effectivement, et je pense que Pogacar a compris que ses cauchemars de l'an dernier, d'il y a deux ans, étaient revenus. Et je pense que les nuits de Poggi vont être à nouveau hantées par ce diable de Danois qui va venir lui détricoter son maillot jaune pendant les jours qui viennent.
David.
Je suis pas d'accord, parce que c'est précisément l'inverse. Et Pogacar l'a dit dans son interview, on vient de l'entendre. Sa tactique, elle était simple. Il a pas attaqué comme un
escargot. Est-ce que tu crois qu'il va réussir? Bien au contraire. Est-ce que tu crois qu'il va réussir à le faire? David,
mais
est-ce que tu
vas
crois
voir,
qu'il va...
tout ouais, était mesuré. J'espère. En fait, sa tactique, elle était simple. C'était de prendre le maximum de temps là, dans la première semaine. Ce qu'il a fait, il est à 1.14. Et maintenant, il est serein et tranquille. Il a plus qu'à se coller. Donc, il va, je trouve ça, au niveau de la tactique, formidable. Il va se coller, puisqu'il a l'avantage, c'est lui qui est en tête, il va se coller dans la route de Vingegaard, et c'est Vingegaard qui a la pression. Je suis désolé, c'est Vingegaard qui doit aller au charbon. Parce que si Vingegaard, il continue à faire son poisson pilote, là, ce qu'il a fait depuis le début du Tour, eh ben il va pas gagner le Tour. Donc c'est à lui d'aller chercher, de sortir les tripes. Et Pogacar, derrière lui, bien plus en forme que l'année dernière, bien mieux préparé, derrière lui, ben moi je demande à voir aujourd'hui.
Tu l'as trouvé vraiment en forme l'autre jour dans le Luron, quand il attaque et qu'il se fait rattraper par Vingegaard, battre par Vingegaard, rattraper par Evenepoel. Moi David, je le trouve moins souverain que je le pensais. Et je pense qu'effectivement,
bah oui,
Giro plus Tour de France, on pensait que c'était facile pour Poggi. Et je pense que c'est pas si facile que ça.
Eh ben, je te renvoie à la même chose. Est-ce que tu vas trouver Vingegaard plus en forme que Pogacar pendant le contre-la-montre? Eh ben non, ben il était derrière, tu vois.
Et comme
il a lâché beaucoup de watts dans la première semaine, parce que c'est Pogacar qui a fait tout le Tour de France à lui tout seul, il est bien évident que l'autre, en suivant la roue, il est plus frais à ce moment-là et qu'il l'a rattrapé.
Vingegaard était à l'article au mois d'avril, il se retrouve trois mois plus tard et il bat Pogacar dans une arrivée au sommet. Tu trouves qu'il n'est pas en forme?
C'est pas un duel, c'est lui qui fait tous les efforts dans la porte, tu rigoles ou quoi?
Douillet ses cieux là, c'est comme Vingegaard, Pogacar, faut en laisser un peu aux autres, hein. Quelques miettes peut-être, Fred.
Ben je vais prendre quelques miettes si on m'en laisse un tout petit peu, mais c'est vrai que moi si j'étais dans la tête de Pogacar, je me poserais des questions. En fait, il a un chewing-gum collé à lui tout le temps, et tu te dis que normalement Vingegaard va être de mieux en mieux, il va progresser encore, il va être mieux sur la dernière semaine. Donc tu te dis, j'ai essayé de le distancer, j'ai pas réussi. Finalement, quand je suis parti à 30 km de l'arrivée, le mec m'a rattrapé et il a gagné l'étape. Tu commences à te poser des questions, et je pense que psychologiquement, cet ascendant psychologique dont tu as besoin quand c'est chaud, quand c'est dur, eh ben je pense que c'est Vingegaard qui l'a récupéré. En fait, j'ai vu une scène qui était incroyable. On voit un moment Pogacar qui se déporte juste pour prendre un bidon, hein. Vingegaard, il était déjà derrière lui. Il le suivait. C'est son ombre. C'est insupportable. Ça doit être insupportable.
Il a gagné une seconde.
On pensait que ce mec était mort. Je pense que Pogacar s'est dit, les quatre premiers jours, déjà, je les mets tous minables. Déjà, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, il a un mec derrière qui lui colle au basque tout le temps et qui peut, sur les étapes qui arrivent, être encore meilleur. Donc, je me dis que concrètement, c'est fort.
sur la pente psychologique, il a inversé la tendance. C'est-à-dire que c'est lui qui est en force. Sur le premier duel, physiquement à égalité de force, c'est lui qui a gagné au sprint de très peu. Et évidemment qu'il a encore beaucoup de retard, Vingegaard. Mais son équipe a bien voulu nous raconter ce qu'elle veut. Depuis 85 jours, il n'était pas en forme. Il a failli pas venir au tour. On va voir. On est content déjà qu'il soit au départ. Ça, c'était du faux. Et je pense pas que Pogacar et son équipe soient tombés là-dedans. Maintenant, le premier duel. Il attaque au Puy-Marie. Il prend 30 secondes. Le col d'après, ça ne dure que 4 km 800. Et Vingegaard revient à 2 km/h plus vite que lui dans cette bosse là. Ça veut dire qu'il est plus fort, il était plus fort dans la montée. Et évidemment que
il était plus frais, c'est différent.
Plus frais,
il était
plus fort,
frais parce qu'il a rien foutu la première semaine.
Avec ce qui s'est passé depuis le début de cette préparation du Tour de France, depuis 85 jours, il y en a un qui vient et qui a beaucoup de jus et qui est déjà en forme. Et on sait qu'un coureur qui a pas couru et qui est déjà en forme, il va monter en pression. Alors qu'il y en a un autre qui a fait un Giro, certes, il s'est baladé, mais il arrive avec une certaine fatigue. Et je peux pas imaginer que Pogacar ne puisse pas penser à un moment donné, est-ce que je vais pas coincer en troisième semaine? En sachant que Vingegaard, selon toute vraisemblance, devrait lui progresser. Ce n'est pas un coureur comme les autres, on le sait. Donc, à partir de cette étape du Lioran, je pense que Pogacar était très serein jusque-là et il a eu un coup au moral et il se dit maintenant, oui, il est dans ma tête, oui, il est dans mes roues. On aura une première explication aujourd'hui. Il faudra courir différemment. À l'avantage de Pogacar, c'est 1 minute 14 et c'est beaucoup entre deux immenses champions. Et il y a aussi la faculté.
Et il y a aussi la faculté. En contre la montre l'année dernière, Jérôme?
Il lui a mis une 38, je crois.
Il lui a mis une 38. Ouais, bah ouais. Mais c'est pour ça que le dernier chrono de Nice est très important. Mais avant, il y a de la haute montagne. On va avoir des vraies réponses. Et ce qu'il faut pour gagner le Tour de France, c'est une grande forme et aussi une grande équipe. Et là, pour l'instant, Vingegaard, il montre des signes de force. En revanche, il n'a pas l'équipe.
Il n'a pas la grande équipe.
Bah, voilà.
Il montre des signes de force parce qu'il n'a pas fait grand chose. Et tu verras quand il aura produit des efforts, parce que c'est à lui d'aller chercher les secondes et les minutes aujourd'hui par rapport à Pogacar, qu'il va lui aussi laisser des cartouches et que lui va se retrouver aussi dans la même situation que Pogacar, avec un Pogacar qui est juste derrière.
Heureusement qu'il a pas
coincé au coin du bois.
Non mais alors moi ça m'ennuie toujours dans les débats cyclisme d'avoir l'avis inverse de Jérôme Pinot. Bien que David Douillet soit en train d'expliquer le vélo à Jérôme Pinot,
que Jérôme Pinot a toujours raison, c'est ça que tu veux dire?
Quand t'es vraiment pas d'accord avec lui, il faut quand même t'interroger malgré
intérêt à avoir des arguments en tout cas.
C'est-à-dire que tout peut être pris dans les deux sens. C'est-à-dire que Pogacar, certes, a couru le Giro, mais Vingegaard, on était déjà surpris qu'il soit aligné et en forme au Tour de France. À partir du moment où il s'est pointé au Tour de France, on en a conclu qu'il était capable de le gagner. Mais bon, il a passé 85 jours sans courir. Enfin, je veux dire, il avait pas couru en compétition avant le Tour de France. Il n'est pas interdit de penser que lui aussi... Il paye les efforts en troisième semaine. Pourquoi seul Pogacar serait amené à décliner
et Vingegaard avec le Giro?
Christophe a rappelé 1 minute 14 de retard. Il va falloir aller les prendre à Pogacar. Il va falloir attaquer Vingegaard. Moi, je rappelle que la seule fois où j'ai vu Vingegaard mettre une raclée à Pogacar, c'est dans l'étape du Granon il y a deux ans.
Le code de la Lose l'année dernière.
Et grâce à un gros collectif.
Merci Jérôme. À l'époque, la Visma avait des mecs qui ne sont pas là cette année. Moi, j'attends. Encore une fois, je ne demande qu'à voir Vingegaard prendre ses responsabilités.
Je te rejoins, Simon.
Ok, Coco, tu sais quoi, je vais te mettre une 30 aujourd'hui et là, je poserai un genou à terre et je dirai, ok, je me suis planté. Moi, peut-être que Pogacar est moins dominateur que ce qu'on pensait en début de tour, mais pour l'instant, c'est quand même lui qui attaque à chaque fois, c'est-à-dire qui a la confiance, qui pense qu'il peut battre Vingegaard.
Et ouais, mais il annonce lui-même qu'il va pas continuer parce que justement c'est pas la bonne tactique à adopter. Donc concrètement,
il va courir différemment, ça c'est sûr. Il va courir différemment.
Non, mais il y a un élément. Parce qu'il y a un élément dont on parle pas.
Ok, ce que fait Vingegaard dans le Lioran, dans l'étape du Lioran, c'est exceptionnel parce que il prend d'abord un éclat.
Et ça sème le trouble dans la tête de Pogacar. Simon, tu pourras.
Oui, mais
non, mais il y a un élément qu'on a occulté.
Que Pogacar, lorsque Vingegaard rentre sur lui. Alors qu'il avait creusé l'écart, il doit se dire oula, ouais, il est fort, il est costaud. Mais en même temps, c'est toujours Pogacar qui attaque. Et dans un premier temps, Vingegaard, il peut pas y aller au moment où Pogacar démarre. Donc moi, j'ai tendance à me dire,
okay,
prime à l'attaquant, prime au mec qui a le maillot jaune et qui encore une fois une minute 14 d'avance sur le deuxième.
David.
Ce qui doit tracasser Vingegaard, c'est qu'il sait pertinemment qu'il a une équipe qui est moins forte que celle de Pogacar. Et ça, c'est indéniable. L'équipe la plus forte, et Dieu sait si pour gagner le Tour de France, il c'est d'abord l'équipe la plus forte qui doit
épauler son leader. Même si Van Aert est en train de monter en pression.
Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, force est de constater, après plus d'une semaine de tour, que c'est UAE qui mène la danse et qui mène le peloton et qui fait sa loi, qui dicte sa loi. C'est pas la Visma qui fait le boulot. Je suis désolé.
David,
donc Vingegaard, je le sais ça.
N'oublie pas qu'hier l'UAE a quand même perdu garçon qui s'appelle Ayuso, qui est la nouvelle petite pépite du cyclisme espagnol, qui est programmé pour devenir un vainqueur de grand tour dans les années à venir, victime du Covid. Et là aussi psychologiquement, quand tu sais que dans ton équipe il y a un mec qui a été obligé d'abandonner à cause du Covid, tu te dis j'étais dans la chambre avec lui, j'étais au massage avec lui il y a quelques jours. Là aussi psychologiquement ça peut avoir son influence et voilà, en tous les cas, il y a le spectre du Covid qui est en train de revenir sur le Tour de France et il est à l'intérieur de la formation UAE.
Je te connais par cœur. Quand tu commences à étaler la confiture, c'est que t'en as pas beaucoup.
parce que j'ai tout bouffé au petit déjeuner.
On a un beau duel. C'est ce duel, il est magnifique ce duel. Ah, là, c'est les petites piques entre les deux. Là,
après Christophe, concernant le Covid, il est dans le peloton. Il est dans le peloton. Certes, chez UAE, mais il est dans le peloton. Les deux coureurs là dont on parle, Vingegaard et Pogacar, sont roue dans roue dans le peloton. Ils se serrent la main, ils se saluent. Enfin, le risque, il est permanent pour tous les coureurs du peloton, pour tous. Visma n'est pas à l'abri du Covid plus que UAE.
Non, mais en tout cas, Ayuso en moins, c'est quand même
une grosse perte avec la montée en pression et en puissance et en forme de Wout Van Aert, qui va être un atout majeur dans la troisième semaine. Pour Vingegaard, alors c'est pas un grimpeur Van Aert, mais il nous a quand même montré qu'il a déjà pu monter l'école très très fort pour faire des différences. Donc évidemment que depuis le Lioran, la montée en pression, la perte d'Ayuso, il y a beaucoup d'éléments qui plaident en faveur de l'équipe Visma Liesebike et de Jonas Vingegaard et en défaveur de Tadej Pogacar. Maintenant, le constat il est, aujourd'hui on arrive sur la première étape des Pyrénées et évidemment que Jonas Vingegaard va devoir prendre des risques, courir un peu différemment, et Tadej aussi, pour pouvoir renverser la tendance.
Et
la tendance
psychologique,
elle est du côté de Vingegaard.
Voilà. Et on verra s'ils en sont capables, et notamment la stratégie de Pogacar annoncée de rester bien tranquillement. On ne sait pas s'il en est capable, puisqu'il a souvent des fourmis dans les jambes. Christophe, c'est un des premiers tournants. Alors, on a parlé aussi d'autres tournants, évidemment, au début de ce tour, mais celui-là.
C'est tout qui débute aujourd'hui.
C'est attendu quand même, le Tourmalet, notamment.
Pour l'instant, c'était de la gnognotte. Là, c'est le vrai Tour de France qui commence avec les deux étapes dans les Pyrénées.
Valeur dire aux coureurs,
c'est un super bon vendeur quand même.
On sait que les organisateurs du Tour ont prévu une dernière partie complètement hallucinante. Il y a ces deux étapes dans les Pyrénées, ensuite on aura la journée de repos et l'étape vers Nîmes, et derrière les cinq derniers jours, ça va être l'euphorie, ça va être le feu d'artifice. On espère
Christophe,
évidemment
que
ce ne sera pas bouclé ce soir.
Ne lance pas Christophe sur ce débat-là. C'était le débat de la semaine dernière. Là, on va plus s'ennuyer. C'est ce que te dit Christophe. Aujourd'hui, il faut tout regarder.
On va plus s'ennuyer, c'est que par définition,
mais ça c'est
pas
toi,
je ne me suis pas ennuyé.
Vous ennuyez, c'est que vous n'aimez pas le vélo.
Voilà. Définitif. Merci Christophe, en tout cas, et belle étape à toi. On va te suivre évidemment sur RMC. 14h pour l'intégral tour et midi, je vous le dis, pour retrouver les amis d'RMC 100% en route avec l'excellent Jérôme Pinault. Je sais qu'il est excellent dans cette radio digitale.
Ah, c'est la star du pouvoir, c'est lui qui porte l'émission.
Non, mais il est magnifique. Ne ratez pas ça à partir de midi et 14h donc sur RMC avec Christophe Cessieux. Salut Christophe, on revient tout de suite sur RMC dans les grandes gueules du sport avec le débat caché. Ben oui, ils ne savent pas ce que c'est et ils vont être obligés d'en débattre. C'est ça le principe. C'est tout de suite sur RMC. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Ah oui,
François,
je veux mon vœu.
11h33 dans les grandes gueules du sport, en direct jusqu'à midi avant les paris RMC. David Douillet, Jérôme Pinault, Simon Dutin, Fred Veil ce matin. On vous rappelle que évidemment tout est à réécouter en podcast si vous ne vous êtes pas réveillé à temps. À 9h30, les grandes gueules du sport commencent bien évidemment. On a parlé notamment de Kylian Mbappé. Dans 15 minutes, les grandes gueules contre-attaquent. Elles vous ont proposé un débat et c'est vous qui choisissez pour l'instant sur le compte X des grandes gueules du sport. C'est Fred Weiss qui est en tête avec son débat. Est-ce que c'est inquiétant la défaite de la France face à la Serbie en basket? 37%.
Eh oui, du vrai sport, David.
David est deuxième, 28%. Il veut parler des Jeux Olympiques, place au sport désormais. Et puis,
c'est pas fini.
19% pour Simon Dutin et son débat sur la finale de l'Euro Espagne-Angleterre. Est-ce qu'une victoire de l'Espagne sauverait cet Euro? Jérôme, il faut rattraper le coup là, 16% avec l'équipe de France au JO, l'équipe de France de cyclisme qui a une cartes à jouer. Vous pouvez encore aller voter, bien évidemment. Je vous rappelle aussi que vous pouvez gagner des cahiers de vacances RMC grâce aux grandes gueules du sport. Dans ces cahiers de vacances, vous allez retrouver toutes vos émissions sport de RMC, le Super Moscato Show, Rotten sans flamme, l'intégral tour et aussi bien sûr les grandes gueules du sport. Des jeux autour de l'Euro, autour de Roland Garros. Pour recevoir votre cahier de vacances, il suffit d'appeler le 3216.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien, mais elles vont devoir débattre. C'est le principe du débat caché. Excellente idée. Le guet-apens du jour, c'est ça.
Je suis à 3 points. Totoni Basseur. Shoot de Tony Parker. Tony Parker face à Marc Gasol, il le joue, il passe. Tony, il reste 3 secondes. Gasol qui prend un shoot n'importe comment, c'est raté. Et la France est en finale.
Vous l'avez compris, on va parler de Tony Parker. Le maillot numéro 9 de l'équipe de France porté par Tipeee a été retiré et ne sera plus attribué chez les Bleus. Décision de la Fédération Française de Basket. Une cérémonie hommage avait lieu hier soir à Lyon en présence de l'ancien meneur de jeu. Son maillot a rejoint le plafond de la LDLC Arena. Retirer le maillot de Tony Parker en hommage à Tipeee, est-ce que vous trouvez ça génial ou ridicule? Simon Dutin.
Ridicule.
David Douillet.
Extraordinaire.
Jérôme Pinault.
Génial.
Fred Weiss.
Génial.
Simon, tu es le seul à avoir dit ridicule.
Bah, ridicule, c'est un peu dur. Je suis obligé de choisir. Je pense que autant le faire en club, comme, et ça se fait beaucoup dans les franchises. D'ailleurs, je crois que son numéro 9 à San Antonio, il va être retiré, ouais, ou il sera retiré, ou il a déjà été retiré. Ça se fait beaucoup. Justement, c'est culturellement très américain. Nous, on n'a pas l'habitude de faire ça, même dans les clubs de foot, de rugby. Enfin, bah, le rugby, c'est différent parce que le numéro a une autre signification. Mais je vais me vautrer encore une fois dans un cliché, un poncif. Je pense que l'équipe nationale, non, mais je veux dire, la sélection nationale, justement, elle appartient pas aux joueurs.
Mais pas toi, Simon.
Soit à la nation, au pays, le bleu, au drapeau bleu, blanc, rouge, tu vois.
Voilà.
Et autant tu peux marquer
un peu d'énergie.
Tu peux marquer de façon indélébile l'histoire d'un club ou d'une franchise, comme c'est le cas aux États-Unis. Autant la sélection, je veux dire, on n'a pas enlevé le numéro 10 après Platini. On n'a pas réfléchi à le faire après
Zidane. Peut-être qu'il aurait fallu le faire.
Non, mais je veux dire, à ce moment-là. Alors,
c'est moins culturel aussi dans d'autres sports que le basket.
On n'a pas enlevé le numéro de Rigaudot, excuse-moi, de Dubuisson.
Mais je vais pouvoir expliquer.
Et puis j'ai un autre argument. Celui qui va reporter le 9 derrière, il y a tout le poids de l'histoire. C'est génial.
Je termine et ça va certainement te fâcher. Va tendre le micro RMC dans la rue et tu leur dis le numéro 9 de l'équipe de France de basket. Les gens, ils vont te dire Tony Parker parce que c'est le seul joueur de basket français qu'ils connaissent. Mais en vrai, personne n'identifie le numéro 9 d'un maillot bleu à un joueur de basket et à Tony Parker. Ça ne représente rien. Donc c'est uniquement pour faire plaisir à Monsieur Parker et parce qu'on a envie qu'il joue un rôle dans les instances nationales.
Mais sincèrement, on parlait d'Mbappé. On parlait d'Mbappé tout à l'heure avec son rôle de capitaine de l'équipe de France. Excuse-moi, s'il y en a un qui a incarné l'antithèse de ce qu'a fait Mbappé, c'est bien Tony Parker au sein de l'équipe de France. Vous vous souvenez de joueurs qui voulaient pas venir, qui traînaient des pieds et de tout pour pas venir jouer l'équipe de France. Et lui qui était le taulier des sports à l'époque et qui gueulait comme un putois en disant vous allez bien jouer les copains.
Je veux rebondir sur ce que dit David, c'est hyper important. En fait, il faut se rappeler que Tony Parker est une star mondiale. D'accord, qui était une star de NBA, qui est champion NBA, qui a son maillot retiré à San Antonio, qui a été MVP des finales. Et qui a surtout, pour revenir à l'équipe de France, et c'est là que je vais te rejoindre, il a permis à l'équipe de France d'être champion d'Europe déjà. Il a eu des performances très intéressantes,
mais
c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il a converti tous les joueurs actuel et passé au fait de.
Mais on ne débat pas de la place de Tony Parker.
Il a revalorisé l'équipe de France. Tous les mecs maintenant vont en équipe de France parce que Tony Parker
a été locomotive. Il a ouvert les yeux aux mecs sur le rôle.
C'est un pionnier, c'est une locomotive. C'est un mec qui a sacrifié toutes ses vacances pour venir en équipe de France. Ce qui ne se faisait pas avant. Les mecs qui jouaient aux États-Unis, ils ne venaient pas en équipe de France. Pas autant. Décrétons
une minute d'applaudissement à la 9e minute de tous les matchs de l'équipe de France de basket en mémoire de tout ce que Tony Parker a fait pour le basket français. Mais il faut arrêter les bêtises.
Quel est l'intérêt de savoir si on reconnaît le numéro 9 en dehors du basket? Nous, les basketteurs, on veut savoir d'où on vient pour savoir où on va. On sait d'où on vient. On était dans la difficulté. On était dans le dur. Personne ne voulait aller en équipe de France. Mais Tony Parker a converti tout le monde. Et j'en parle très ouvertement parce que je ne suis pas ami avec Tony Parker. On a des très bonnes relations. Mais moi, je ne fréquente pas Tony. Donc je te le dis ouvertement. Sans Tony, l'équipe de France ne ressemblerait pas.
D'accord. Ça valait de retirer le maillot et le numéro 9.
Mais bien sûr que ça mérite parce que
c'est la première fois que ça se fait dans l'histoire du sport collectif en France. On n'a pas enlevé le numéro de Karabatic, on n'a pas enlevé le numéro de Platini, ni de Zidane.
Nous, c'est normal, c'est culturel, c'est le basket, c'est un sport américain.
Et en plus, c'est qu'un maillot, c'est qu'un numéro. C'est
un numéro. Et en fait, avant, on ne pouvait pas le faire, tu sais pourquoi? Parce que le numéro allait de 4 à 15. Et c'est pour ça qu'on le fait.
Mais tu peux faire jusqu'à 99. Tout à l'heure, on parlait de symbolique.
Pour respecter un mec qui a fait le taf en équipe de France et qui a converti tous ces mecs, et grâce à eux, on a Wembanyama.
Mais c'est Jérôme.
C'est peut-être rendre hommage justement d'avoir toujours le même numéro.
Il peut pas y avoir de choses plus importantes que de voir son maillot retiré. Moi, mon rêve, c'est d'avoir un maillot retiré dans une France.
Je vais laisser parler Jérôme parce qu'il faut encore parler là-dessus. Mais quand en équipe de France de foot, il y a le numéro 10 de Zidane, on sait que c'est le numéro 10 de Zidane. Ça reste le numéro 10 de Zidane.
Mais parce que c'est une position numéro 10 aussi, chez vous. Numéro 10, c'est une position.
Oui, mais tu sais bien que maintenant, le maillot change. Jérôme, j'aimerais bien entendre Jérôme là-dessus, parce qu'on ne t'a pas entendu.
Non, mais je pense que c'est une symbolique. Après, c'est qu'un numéro, et c'est pas grave s'il n'y a plus de numéro 9. Ce qui est plus important, c'est que c'est symbolique. Tout à l'heure, on parlait de transmission des valeurs, transmission de l'histoire. Et je pense que de plus avoir ce maillot, mais qu'il soit exposé, qu'il ait appartenu à l'un des plus grands joueurs de l'équipe de France, qui a, comme dit Fred, tout donné pour l'équipe de France, c'est pour moi très bien vu de la part de la fédération et des gens qui ont décidé cela, parce que ça montre que l'importance d'obtenir, de porter ce maillot, il faut être digne de le porter, et ça transmet un certain nombre de valeurs qu'ont pu mettre en place Tony. Moi, je trouve que pour un jeune joueur qui arrivera, qui fait 3-4 exploits et qui met le 9, fais au moins ça et tu prouves. Et ce 9-là, il est mis de côté. Il y a d'autres numéros, chacun crée son histoire, joue avec son numéro, et il y aura des 14, des 28, des 99 peut-être qui rentreront dans l'histoire du basket. Moi, je trouve que c'est très bien d'avoir retiré ce numéro pour montrer à la jeune génération, à la future génération, que ce truc-là, c'est la base, c'est l'exemple. Mais
il faut se rendre compte d'un
suivre.
Truc, Jérôme, je vais juste rebondir sur ça. Il faut se rendre compte d'un truc. La plupart des mecs qui vont être en équipe de France, c'est des mecs qui potentiellement vont jouer à NBA ou ont joué en NBA, ou en tous les cas ont la volonté de jouer en NBA. Donc ça veut dire que pour eux, quand on retire un maillot, c'est quelque chose de normal, parce qu'en NBA, tout le monde le fait. Ouais. Donc c'est envoyer un symbole fort à tous tes jeunes joueurs en disant t'as un mec qui a été un pionnier, qui a fait tous les efforts, qui est un des plus grands joueurs de l'histoire du basket mondial et évidemment français, parce que maintenant on a Wembanyama qui va arriver. Donc pour moi, se rappeler un petit peu du passé.
Fred, je suis d'accord avec ça. On l'a déjà dit et on remet pas en cause la place de Parker. Mais ce que je vous pose comme question à ceux qui ont dit, c'est génial. Quand le numéro est repris par quelqu'un d'autre, il y a toute l'histoire qui va avec. Ça, c'est aussi ça, rendre hommage à quelqu'un.
Mais pas chez nous, en fait. Nous, c'est le contraire. C'est le voir affiché en hauteur.
C'est très américain. Fédération française de basket le fait?
Parce que c'est un sport américain. Je viens de te l'expliquer. Oui, tu vois, François, c'est ça ton problème. La plupart des joueurs qui jouent en équipe de France rêveraient de jouer en équipe.
Son maillot a déjà été retiré aux Spurs.
C'est normal.
C'est magnifique, c'est mérité.
Non, mais ça va au-delà. Parce qu'il a permis à toute une génération d'Européens, oui, et pas de Français, d'aller en équipe nationale.
Mais je suis désolé.
Vous avez soulevé un problème. Important.
Rigaudeau, Ciara, c'est des mecs qui mériteraient.
Vous avez soulevé un problème important.
Ça pose un problème d'équité entre les générations. C'est pas normal.
vous avez soulevé un problème important parce que vous avez comparé des sports par rapport à d'autres. Vous avez comparé le hand, vous avez comparé le foot, vous avez et on a même pas, on aurait même pu parler du rugby aussi. Là, il y a jamais eu de problème de recrutement ou de motivation à aller en équipe de France. C'était le cas dans le basket. L'équipe de France avant Tony était sinistrée par le fait que des joueurs boudaient l'équipe de France et ne voulaient pas y aller, voulaient pas faire l'effort. Et Tony a ressuscité l'équipe de France. Et rien que pour ça, ça mérite ce qui vient de se passer, je trouve.
D'accord. Non, mais t'es sur la même ligne que Fred. Alors, toi, t'avais pas de problème de maillot en même temps, David Douillet, de numéro. Hein, donc, ça, c'est vrai que.
Ouais, on n'a pas retiré le kimono du judo français parce que David Douillet a pris sa retraite. Bon.
On aurait dû.
Hein?
Évidemment.
Le respect dû à David Douillet, qu'est-ce qu'on
dit? Il y a une culture dans différents, dans chacun des sports. On aurait pu aussi retirer le 10 de Platini.
Mais c'est ce que je disais, Jérôme.
Mais là, c'est une culture américaine. Le basket tend vers les États-Unis. Le Graal, c'est les États-Unis. Et c'est ce qu'on fait. C'est les codes. Voilà, exactement.
Vous
savez, dans le judo, il y a des codes japonais. Dans le basket, il y a des codes américains. Ouais, c'est les codes du sport, de ce sport. Voilà, moi, je suis content que ça soit respecté comme ça.
Oui,
et qu'on s'adapte en France de cette manière-là. C'est bien.
Ouais. Il faudrait des dossards aussi personnalisés pour le vélo, Jérôme. Oui, mais... on retirerait aussi les dossards.
Le 51, etc. Le 51.
Bah voilà, le 51. Le 51, il aime bien Simon, mais pour d'autres raisons. Non.
Excellent. On explique la vanne ou pas?
Ouais, non, pas du tout.
Il y a le 27 aussi.
Bon voilà, on a fait le tour sur ce débat, mais qui était un débat caché mais enflammé, et c'est ça qu'on aime dans les grandes gueules du sport. Bravo à vous, n'hésitez pas.
Merci Simon, parce qu'il a été courageux quand même de contrer tout le monde.
Mais voilà. Moi j'adore me farcir tout le monde
Moi je te répondrai pas parce que
il s'en prend toujours à plus fort que lui, si bon, du temps, il a pas peur. Allez, 11h45, on revient dans un instant avec donc les GG qui contre-attaquent. Le résultat dans un instant. Restez avec nous, vous avez encore quelques minutes pour voter, mais pas beaucoup. Allez-y sur le compte X des grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Et elles sont en forme, les grandes gueules du sport, ce matin. À retrouver en podcast, bien sûr, si vous avez raté le début. C'est sur l'appli RMC que ça se passe. David Douillet, Jérôme Pinot, Simon Dutin, Fred Weiss pour vous accompagner avant les paris RMC à partir de midi. Les GG qui prennent dès maintenant les commandes de l'émission.
RMC. Les GG contre-attaque.
Vos GG vous ont fait 4 propositions de débat sur le compte X des grandes gueules du sport et ça y est, les votes sont clos. 4e et dernier, Jérôme Pinot qui avait proposé un débat sur l'équipe de France de cyclisme. La France a une carte à jouer, 16%. L'avantage c'est que t'as encore un peu de temps pour le proposer. Pas beaucoup, mais tu pourras le refaire.
Jérôme,
tu pourras retenter ta chance.
Je retenterai.
3e. 18%, Simon Dutin, pour son débat sur l'Espagne qui peut sauver l'euro si elle gagne la compétition. Toi aussi, tu pourras retenter demain, tiens.
Je vous le reproposerai demain.
Comme ça, il aura moins à bosser. Ça lui va parfaitement. 30%, deuxième, il s'est bien battu, David Douillet, qui voulait parler des Jeux Olympiques. Place au sport désormais. Bravo, David.
J'espère que je n'aurai pas à le reproposer.
Bah oui, mais bon, on aura l'occasion de reparler des JO quand même sur RMC, on en parle beaucoup. Et puis, avec 36%, c'est le vainqueur du jour, il le voulait, cette victoire.
C'est mérité.
Pour une fois,
Fred Weiss.
Tu travailles, ouais, bon, tu dois être
mérité. Il faut préciser, c'est sur France-Serbie hier, alors les garçons qui ont perdu contre la Serbie, les filles ont gagné contre la Serbie hier, il faut préciser que Fred y était hier à Lyon.
Oui, j'étais.
Et qui a fait un long voyage.
En bus, oui.
Pour nous rejoindre ce matin.
D'où la fatigue ce matin.
Bravo, exactement. Fred.
Mais merci beaucoup.
J'ai eu la chance
d'être à la cérémonie de
du
maillot retiré de Tony Parker. Donc, c'était vraiment génial par rapport à ça. Alors, oui. J'ai eu la chance d'assister à ce match aussi, qui était un match hyper intéressant, parce que dans la préparation, parfois les Français n'affrontent pas les équipes suffisamment armées pour se préparer.
79 à 67 de la France contre la Serbie.
Mais concrètement, il y a eu des périodes où on a senti une vraie différence dans le jeu. Souvent, on a critiqué l'équipe de France parce qu'ils affrontaient des adversaires trop faibles pendant la préparation et on arrivait sur les compétitions, on n'était pas bien. Notamment lors de la dernière Coupe du Monde où l'affrontement était pas suffisant et on s'est retrouvé directement massacré par le Canada. Là, on attaquait un gros morceau, c'était le vice-champion du monde qui avait été vice-champion du monde sans Nikola Jokic et cette fois-ci, il était là. Donc concrètement, ça change beaucoup de choses en plus et c'est un ajout énorme. Alors, défensivement, j'ai pas grand chose à dire. Alors oui, il y a eu quelques errances. J'ai trouvé Rudy Gobert un petit peu dans le dur, ne tenant pas forcément ses duels, ne jouant pas assez. Mais c'est en attaque que j'ai vraiment beaucoup d'inquiétudes. Alors oui, il y a un créateur génial qui est Victor Wembanyama, qui attire l'attention, qui attire les défenses et qui permet à ses coéquipiers de se mettre parfois en valeur. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement dans cette équipe. Il n'y a pas beaucoup de créateurs. Par exemple, un Nando Colo joue moins de 5 minutes sur ce match. Je m'inquiète un petit peu sur le fond de jeu. Je m'inquiète un petit peu sur cette volonté de bouger le ballon, de faire bouger les défenses. Est-ce qu'on a la capacité? Est-ce que juste en face c'était dur et on est dans la période de préparation où il nous reste 15 jours encore avant les Jeux Olympiques? J'espère. En tous les cas, c'est vrai que, je me répète, défensivement c'était intéressant. Offensivement, je trouve qu'il y a encore énormément de travail.
Vous êtes inquiet, messieurs?
Non.
Non, parce que ça reste des matchs de préparation, mais c'est sûr que sur le fond, et quand on entend Fred, moi je suis pas un grand spécialiste, on peut s'inquiéter du jeu. J'ai toujours tendance à dire que le jour de la compète, tout change, que c'est une compétition qui commence, on est en France, il y a une grande nation et les joueurs retrouvent, pas par miracle, mais souvent leur très haut niveau et se surpassent et vont chercher les 110, 120% grâce à l'événement. Et moi, je suis d'accord avec toi, Jérôme, mais la fluidité
en attaque, tu vois, c'est ça qui m'inquiète.
Non, mais après, moi, je suis pas un spécialiste du basket, mais je suis pas inquiet pour l'équipe de France parce qu'on a sur le papier l'une des meilleures équipes au monde et on peut s'imaginer que grâce à l'événement et grâce à tout cela, tout ce qui va être autour de cela, le public, la ferveur, ça va revenir, va reprendre son ordre.
Les jeux à domicile.
On a la chance d'avoir peut-être le meilleur joueur au monde en ce moment dans notre équipe. Et moi, ça me rassure, franchement. Après, ça va s'organiser autour de lui, et encore mieux, et le niveau de jeu va s'élever forcément, obligatoirement.
Alors, le meilleur joueur au monde, il était juste en face, au même poste, mais juste en face, mon cher David.
Oui.
Non, mais c'est une question de point de vue. Moi, je pense que c'est Wembanyama. Mais
bon. David, je te dis, c'est peut-être le futur meilleur joueur. Ça, j'ai quasiment aucun doute. À l'instant T, Nikola Jokic, sur certaines actions, a montré toute sa classe et a montré qu'il était dominant et plus que Wembanyama.
Okay. Et puis, moi, je veux pas gâcher la fête. J'espère que les jeux vont nous booster à domicile. Mais moi, j'ai grandi dans un monde où, la Serbie est désormais une émanation de ce qu'était la Yougoslavie, qui est une des meilleures nations de l'histoire du basket. Je veux dire, excusez-moi, on tombe pas de l'échelle quand on perd contre la Serbie. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est tout.
Ouais, c'est Banyama, une grosse nation, évidemment.
C'est quand même.
Oui, mais notre objectif, on sait qu'il est très élevé.
Par rapport à l'objectif, on n'est pas une des meilleures nations.
Je reviens sur ça. On est quand même l'Allemagne qui est championne du monde. La Serbie qui est renforcée par Nikola Jokic. Ouais. Le Canada, les États-Unis.
Mais pour moi, on est derrière toutes ces nations.
On est derrière ces quatre nations.
Donc il y a du boulot. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton débat, Fred.
Merci.
Et on en reparlera, bien sûr, dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup, David. Merci, Jérôme. Merci, Simon.
Merci à tous.
À très bientôt. Belle journée à vous. Vous avez fait une magnifique émission. Les GG qui reviennent demain à 9h30, midi, en direct sur RMC. Et tout de suite, c'est l'heure des paris RMC avec la Dream Team au programme du foot. Il y aura également le Tour de France et du rugby avec un match des Bleus ce soir au programme. Restez avec nous sur RMC. À tout de suite.